Salut à tous et bienvenue pour ce 284e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Et oui, 284, j'ai fait le calcul les gars, hein, puisqu'on se demandait c'était quel numéro, donc je crois que c'est celui-là. C'est 284 ou 285. En tout cas, on s'approche des 300, ce qui est déjà énorme. Évidemment, on est là pour débriefer le match Lorient-Paris Saint-Germain qui a eu lieu hier soir à un horaire inhabituel, à 19h. Victoire 4 buts à 1 du Paris Saint-Germain avec un doublé d'Ousmane Dembélé et un doublé de Kylian Mbappé. Pour vous parler de ce match, je vous présente mes trois camarades coéquipiers du jour. Pour commencer, celui qu'on surnomme dans Paris Intramuros, El Professeur Jean-Baptiste Guégan. Salut JB.
Salut les gars, le
Comment
professeur
ça va
est à
JB?
l'école. Ah, il
T'es
est à
malade
l'école.
JB ou quoi?
Je suis fatigué là, je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé pour PU hier soir. Merci Clément, merci de me faire travailler jusqu'à 2h30 du matin.
Voilà,
Esclavagiste,
l'escroc.
bilan.
Bah, t'es en vacances en ce moment, c'est les vacances scolaires.
Alors,
Ah
moi
non.
j'ai repris, je suis dans mon école là, regarde ce superbe plafond qui est au-dessus de moi. Et tu
Ah
vas
bah oui,
peut-être
c'est
entendre vers
vrai.
14h25 une sonnerie.
Oui, non, excuse-moi,
Voilà.
c'est parce qu'à Nantes, en fait, actuellement, c'est des vacances. Mais c'est vrai que pour Paris, c'est terminé. Donc, bah écoute,
Merci.
reste éveillé quand même, malgré tout, hein. Le deuxième camarade du jour, c'est évidemment le jeune, mais néanmoins talentueux, Clément Pernia. Salut Clément, comment ça va?
Salut Mousse, j'ai pas le droit à un petit surnom, moi, je suis déçu. J'ai pas le professeur, j'ai pas
Talentueux,
le. J'en ai
talentueux, c'est gentil.
quelques-uns, mais j'en ai quelques-uns, Clément, mais ça risque de nuire à ta
On va pas les dire.
réputation. Donc je préfère
Ok,
les
très bien.
éviter.
Très bien. Enchanté, Clément.
Mais j'ai quand même souligné que tu étais talentueux. Eh
C'est
oui.
vrai, c'est vrai, c'est gentil. Beaucoup de
Ah,
talent dans cette émission.
jeune auteur, déjà 5 livres à ton actif, Clément, c'est ça, hein? C'est bien 5.
Effectivement, effectivement. Merci de
Voilà.
le rappeler, c'est gentil. C'est gentil.
Donc
Dont
deux
trois avec
avec.
le. Trois, deux ou trois? Trois avec le loustic au-dessus de moi, là.
Exactement. Et deux avec Paris United, ce qui
Eh oui,
relate
deux avec Paris la télé, évidemment.
l'histoire du Paris Saint-Germain,
Eh oui.
une histoire populaire du Paris Saint-Germain et une décennie pour rêver plus grand que j'ai eu le plaisir de faire avec toi et aussi avec JB, évidemment. Et le troisième camarade du jour qui a été surnommé par Pierre Clément de France Bleu Maître Yoda, même s'il n'est pas toujours aussi zen que Maître Yoda, c'est évidemment Coach Yacine, Yacine Ahmed. Salut Yas.
Salut à tous.
Comment ça va, Yas?
Bah, ça va bien, ça va bien. J'ai même peur que ça aille trop bien en ce moment. J'ai toujours peur du calme avant la tempête.
Bah, j'ai peur que les gens soient déçus, que tu ne t'énerves plus jusqu'à la fin de saison, parce que ça a l'air de plutôt bien se passer en ce moment, ce qui est plutôt rare au
Alors
Paris Saint-Germain.
comme quoi, je suis pas un énervé de nature. C'est juste eux qui m'énervaient et que je sais aussi être calme.
Non, non, c'est faux. Rappelons déjà que tu as les origines algériennes, donc ça c'est inné, c'est dans tes veines. Et deuxièmement, je constate que chez nos camarades, par exemple du Club des 5, et évidemment chez Pia que je salue, chez France Bleu, tu es tout à fait zen. Il y a qui c'est que tu t'énerves? Bon, évidemment aussi tu es chez toi, donc tu es plus naturel, on va dire.
Voilà.
On s'adapte au public, on s'adapte à l'émission.
C'est
C'est
ça.
pour ça
J'ai
qu'on
pensé à
joue.
Yacine hier parce que j'ai vu Mbappé faire une attaque dans la surface défensive et je me suis dit, là, s'il se met à faire ça, c'est que Yacine, il n'a plus aucun motif de s'énerver. C'est terminé.
Je t'ai dit, c'est
Ah
trop
ouais,
calme en ce
mais.
moment.
Ah ouais, non, mais j'ai l'impression que Kylian Mbappé même remonte dans l'estime de Yacine. Il va finir par en dire du bien. Croisons
On
les
va
doigts,
dire
il va
qu'il
finir par en dire du bien.
arrête sa chute vers le bas, quoi.
Non, mais en plus, il a mis un tweet la dernière fois et je comprenais tout à fait ce qu'il voulait dire sur l'absence d'Mbappé et le fait que le PSG gagnait. C'était face à Lyon, Yas. Et en fait, ce que tu relevais, c'était pas du tout contre Kylian Mbappé. C'était surtout
Non.
pour certains commentateurs qui disent, ouais, on ne peut pas se passer de Kylian Mbappé. Et la preuve en est que, évidemment, en tout cas pour cette saison, ce qui était plutôt vrai les saisons dernières, puisqu'il il nous a sauvé la baraque pas mal de fois. Mais c'est vrai que cette saison, bon. C'est un peu mieux, on ne compte pas sur un seul homme. Avant de commencer, bah, je salue déjà tous ceux qui sont sur le chat. Hein. Je vois, il y a Aïssa, Eldoda, j'ai mes lunettes, je peux lire du coup. Il y a Kevin, Baba, il y a Nas, il y a Benoît, Jestoun, Christophe, Raph. Je ne vais pas tous les citer, évidemment, mais bienvenue à vous tous. Vous êtes toujours aussi nombreux. On est déjà presque 200, les gars, sur le live. C'est incroyable, on va finir à 1000, obligé. J'ai vu que la dernière fois, ça avait dépassé les 1000. Félicitations, messieurs. Félicitations, messieurs. Et n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. C'est toujours intéressant parce que la dernière fois, je voyais que il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient à l'étranger. Et d'ailleurs, je passe un bonjour à quelqu'un que sans doute Yacine connaît. Je sais qu'il connaît. Peut-être Jean-Baptiste, puisque c'est notre génération. Peut-être moins Clément. C'est l'ex-leader du groupe Alliance Ethnique, Kamel
Oh.
Ike Melka,
Ah oui?
évidemment. Oui, nous discutons sur
Énorme.
Instagram et j'ai su que c'était d'abord un grand supporter du Paris Saint-Germain et c'est un fidèle auditeur depuis des années du podcast Hors Jeu Capital. Donc, Kamel, depuis les USA, je te salue. Merci pour le soutien et pour les mots gentils que tu m'as envoyés sur Instagram. Ça te dit quelque chose, toi, JB, Alliance Ethnique?
Ah bah évidemment. L'alliance ethnique, c'est quoi? Bon après,
Ah là!
je suis à deux doigts, je suis à deux doigts de me lever et de danser là.
Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est un groupe, Clément, toi tu es trop jeune peut-être, mais c'est un groupe qui a fait danser la France entière dans les années 90. Et
T'as vu comment
Melka,
il nous regarde
excellent
le Clément
rappeur,
là?
grande technique. Ah ben là, il est
T'as
perdu
vu
le
comment il nous
pauvre.
regarde avec son petit sourire là?
Voilà. D'ailleurs, hey, Mousse, on peut en profiter, mais
Ouais.
si alors déjà si Kamel un jour veut venir participer, ce sera avec plaisir. S'il nous regarde aujourd'hui. Et si Paris gagne la Ligue des Champions, je mettrai peut-être une petite chanson en fond et je danserai.
Ah,
Ah, je le
mais ça
note.
c'est obligatoire.
C'est
Ça
noté.
c'est obligatoire.
Ah
Mais
ouais, mais
vas-y, Clément,
faut faire
vas-y.
gaffe à ce genre de promesses là. Faut faire gaffe à ce genre de
Ah
promesses
non,
là.
non,
Parce
moi
que
je les
c'est
tiens,
vrai.
moi, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Et d'ailleurs,
Dire que si on gagne la Ligue des Champions.
je t'accompagnerai, Yass, parce que nous, les gens d'origine maghrébine, sommes des grands danseurs de funk. Hein, Yass, t'as connu ça, hein, les trois quarts en cuir, hein, le 500 et les
Exactement.
Timberland. Hein, on a tous connu ça. En tout cas, Melka, voilà, quand tu veux, mais c'est déjà dans les tuyaux, on va faire un truc avec lui, ça c'est obligatoire. Donc voilà, et salut à vous tous qui nous regardez du monde entier. Allez, on va passer au débrief du match. Je ne sais pas si tu peux mettre la compo, Yas. Alors, il y a eu neuf changements, hein, il me semble, hein, par rapport au match face à Lyon. Encore une victoire avec 4 buts à 1, décidément, on les enchaîne. Ça fait quand même
C'est le
12 buts
tarif.
en 3 matchs, exactement. Donc, ça s'est passé à Lorient. Donc, malheureusement, à cause de Monaco, nous n'avons pas pu être champions dès hier soir. Mais comme l'a souligné très bien Yacine sur le réseau X, on va fêter ça au parc face au président Roussier, hein, ça va lui faire plaisir, ex-dirigeant de l'OM, si je dois le rappeler. Pour
On va le
commencer, JB,
respecter
alors.
jusqu'au bout. On va le respecter
Exactement.
jusqu'au bout.
Exactement. Bien qu'on kiffe Mathieu Bodmer, attention, hein,
Ah, mais Mathieu, on le respecte. Mais
on espère une bonne fin pour le Havre quand même.
ouais. Voilà, on espère qu'ils se trouveront, évidemment. Hein. Mais on remercie aussi
Évidemment,
l'arbitrage
tout à
hier, hein,
fait.
qui a privé Lille d'une égalisation méritée et qui nous aurait permis d'être champion. Donc, grâce à l'arbitrage, on sera champion à Paris. Et merci l'arbitrage français pour tout ce que vous faites pour la France. Stéphanie Frappard valide cette déclaration. Voilà.
Nous serons champions uniquement grâce à notre talent, JB. Nous n'avons pas
C'est
besoin
ça.
de l'arbitrage. Donc il y a la compo sous les yeux, hein, vous voyez bien. Donc avec un trio d'attaque avec Ramos en numéro 9, Mbappé à gauche, Dembélé à droite, avec un milieu plutôt inédit, hein, avec Fabien Ruiz, Lee et les jeunes Mayulu, et en défense centrale, pour le plus grand bonheur de Nicolas Puravo et Yacine, il y avait Milan Skriniar, Hernandez, Mendes et les jeunes Zag. Alors, on fait d'abord un débrief général et puis après on passera au thème. JB, qu'est-ce que tu as pensé de ce match en plein milieu de semaine, à un horaire décalé et malgré tout une belle victoire du Paris Saint-Germain avec des beaux buts?
Voilà, soyons très honnêtes, les matchs à 19h, c'est franchement pourri. Les matchs qui commencent à 19h avec une équipe qui a tourné, c'est un peu poussif. Après, bon, on a vu qu'offensivement, on était au-dessus. J'étais très surpris de la faiblesse défensive de Lorient, des vrais boulevards. On a su les exploiter. Peut-être que sous Galtier, ça n'aurait pas été le cas. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Après, c'était sympathique. C'était une rencontre préparatoire. Je déteste ces matchs en milieu de semaine parce que ça veut dire qu'on fait les podcasts le lendemain quand on bosse. Mais écoute, c'était, ma foi, fort divertissant. En termes de foot, je pense qu'on n'a pas appris grand-chose, si ce n'est que Dembélé. Était vraiment impressionnant et Kylian Mbappé pouvait courir, et ça, c'est important. Le match de Skriniar aussi m'a rassuré, ça veut dire que quand tu es en situation de handicap, tu peux que progresser. Et
C'est pas
ça,
bien, ça c'est pas bien.
c'est un vrai symbole hein, pour tout le
Oh
monde. Hein. Voilà. C'est un PSG inclusif, et ça fait plaisir.
Qu'est-ce qui prend cher le pauvre Skriniar, dont on dit d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu un peu les rumeurs, hein,
Bon esprit, là.
qui pourrait partir dès cet été. Clément, est-ce que tu es
Ouais.
d'accord avec JB, plutôt satisfait quand même de cette rencontre?
Bah oui, évidemment, évidemment satisfait. Bon, déjà, il y a une première chose, c'est la compo. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un PSG quasi type hier et complètement turnover samedi contre le Havre à 3 jours de Dortmund. Finalement, Luis Enrique a choisi une solution intermédiaire. Il va mettre la moitié de l'équipe hier et l'autre moitié contre le Havre, sachant qu'hier, il a mis deux choses. Il a mis les joueurs qu'il faut absolument protéger samedi et les joueurs les plus fragiles. Enfin, c'est ma lecture en tout cas. C'est-à-dire que, bon, on parlera tout à l'heure dans la turnover, mais voilà, les joueurs un peu plus fragiles comme Mendes et Hernandez, par exemple, ont joué hier et ne joueront pas ce week-end. Tout comme Mbappé et Dembélé qui seront au placard. Encore une fois, ça se tient, ça marche, ça fonctionne. Yacine l'a bien expliqué la dernière fois, il calcule les temps de jeu. Il y a un vrai calcul, il y a une vraie stratégie derrière ça. Et ça marche, puisqu'on n'a pas de blessés, toujours pas, à part Kimpembe. Donc ça, c'est pour les choix de base. Sur le match, la faiblesse de l'adversaire facilite forcément la tâche, parce que en accélérant un peu, on l'a vu en première mi-temps avec les individualités, tu arrives à faire la différence assez vite. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus de résistance quand on sait que Clermont était venu faire un partout au Parc, même si c'était un peu miraculeux pour eux, mais avec une équipe qui ressemblait plus ou moins à la même chose de côté PSG. Là, ça s'est vite décanté. Malgré le turnover, cette équipe, elle est toujours engagée, tout le temps à fond. On l'a vu dès la première mi-temps, les duels, l'impact que met Nuno Mendes dans les tacles, l'impact que met Lucas Hernandez. En fait, il n'y a pas de relâchement, il n'y a jamais de relâchement. Tu le vois sur l'attitude de Luis Enrique sur le banc. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de donner des consignes, de motiver ses joueurs, de râler quand ça ne revient pas. Et en fait, ça dit beaucoup de l'état d'esprit. En fait, il y a une mobilisation, ils sont tous concernés et ils vont vouloir l'être jusqu'au bout pour ne pas justement qu'il y ait de relâchement avant les échéances qui vont arriver dès la semaine prochaine. Donc c'est ça que j'ai envie de saluer aujourd'hui, c'est qu'au-delà du score, il y a une vraie mobilisation et une vraie voilà, tout le monde est concerné quoi, et je trouve ça vraiment remarquable.
Très bien Clément, même question Yacine, j'imagine que tu es plutôt satisfait devant ton poste avec une équipe qui est loin d'être l'équipe type, même si il a souvent répété, hein, Luis Enrique, Yacine, il n'y a pas de, pour lui, il n'y a pas d'équipe type, même si on sait qu'il y a quand même des titulaires en puissance, mais là avec 9 changements en déplacement en milieu de semaine et réussir encore à en coller 4, c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, Yacine.
Ouais, alors je suis à deux doigts de passer directement au sujet turnover parce que
Mais
parce que
tu peux
finalement,
enchaîner, ben voilà, parce que en
ouais,
fait on en parle, mais
parce que
tu peux
déjà,
enchaîner là-dessus.
JB Clément a tout dit, et puis en fait, c'est finalement ça un peu l'enseignement du jour, du soir, mais de l'année aussi. Bah, en fait, ce qu'a dit Clément, c'est-à-dire que Luis Enrique, il a des temps de jeu à gérer, et en fait, il s'en fout du match. J'ai presque envie de dire que ça ne l'intéresse pas de savoir qui est l'adversaire. Lui, il a des temps de jeu à gérer pour que tout le monde soit en forme. Donc, il se tient à sa ligne de conduite. Il fait des changements, etc. La deuxième chose, c'est que dans ce turnover, il y a des joueurs qui sont restés à la maison. Pourquoi c'est important? Parce que au lieu d'emmener Vitinha, Zaïre Emery, etc., dont tu sais qu'il y a 90% de chances, sauf si le match tournait mal, etc., qu'ils entrent en jeu, et ben du coup, tu les laisses à la maison. Ça évite un déplacement. Ils font un travail au campus. Athlétique, de récup, tout ce que tu veux. Ils font pas le déplacement, ils sont chez eux. C'est encore une fois un très bon choix plutôt que d'emmener un joueur, même si le groupe est important. C'est mieux que d'emmener des joueurs dont tu sais que déjà la moitié vont pas rentrer en jeu. Donc ça, c'est important. La troisième chose, tu lances des jeunes. On l'avait réclamé encore une fois depuis plusieurs saisons. Quand tu as de l'avance en championnat, etc. C'est le moment de lancer des jeunes. Là, en plus, tu lances des jeunes dans un contexte favorable, avec une équipe qui tourne, avec des principes de jeu forts, donc tu ne les envoies pas à l'abattoir. Et tu as donné du temps de jeu à tout le monde, ce qui veut dire que l'équipe que tu mets soi-disant, alors à part le trio d'attaque, mais soi-disant de remplaçant, en fait, c'est une équipe qui a du temps de jeu. On n'est pas à 200 minutes sur l'année, on est à plus de 1000 minutes pour tout le monde. D'ailleurs, ce qui serait intéressant de faire en fin de saison, ce serait de voir par rapport aux options, ça va être compliqué de trouver tous les chiffres, mais de voir en fait. Le nombre de joueurs a plus, par exemple, de 1000 minutes comparé aux autres saisons. Parce que les autres saisons, on avait, par exemple, Neymar, Verratti, Mbappé, Messi, etc., à 2500, 3000 minutes. Et puis après, on avait un paquet de joueurs à 280, 360. Là, on doit avoir un paquet de joueurs à plus de 1000 minutes. Et ça, c'est hyper important. Et puis, bon, voilà, il y a ce début de match. Comme l'a dit Clermont, c'est une équipe sérieuse. Le début de match n'est pas très bon. Lorient essaye de faire quelque chose. Rapidement sur le talent, tu fais la diff et t'enfonces le clou. Ce qui est aussi quelque chose de différent, contrairement aux autres saisons. À savoir que quand tu mènes 1-0, tu t'arrêtes pas de jouer. Ça rejoint l'état d'esprit, ça rejoint la mentalité, ça rejoint les comportements. Je rappelle aussi que quand il laisse Mbappé et Dembélé sur le banc contre Lyon, alors évidemment que ça tourne bien, donc il n'en a pas besoin. Mais il y a une chose importante dans ce turnover, c'est que quand tu n'utilises pas les joueurs, tu leur permets quand même de décompresser mentalement. Et le plus dur pour un footballeur, ce n'est pas d'enchaîner les matchs en termes athlétiques, c'est d'enchaîner les matchs avec la concentration que ça demande, l'investissement que ça demande. On en parlera après vite fait, mais si Mbappé est investi hier, c'est parce qu'il n'a pas joué ce week-end. Vous pouvez faire ce que vous voulez et essayer de nous expliquer que ce n'est pas vrai, c'est vrai. Donc voilà. Donc tout ça enchaîné, bah oui, tout tourne bien en ce moment, tout est positif, tout le monde a du temps de jeu, les joueurs ne se sentent pas comme des bouche-trous qui viennent jouer le fameux match de Lorient au milieu de semaine parce que c'est un match moins important, mais ils se sentent concernés par tout le monde. Voilà, et je termine juste sur un truc, parce que c'est un commentaire qu'il y avait dans le chat. Quand on a mis la compo, il y a des notes. Alors je rappelle que ces notes-là, c'est un peu comme SofaScore, c'est des notes qui sont créées par un algorithme. Elles ne veulent rien dire. Je vais vous donner un exemple vite fait. À l'époque, Icardi était entré en jeu 18 minutes. Il avait touché 9 ballons. Il en avait perdu 6. Sa note, c'était 8,6. Donc, vous occupez pas des notes que vous voyez dans les compos. C'est de la merde, en fait. Voilà. Vous prenez pas la tête. On va pas y aller par quatre chemins. C'est de la merde.
Non, mais en gros, on met cette compo pas pour les notes. Hein. C'est surtout pour la
Ouais, ouais,
compo.
ouais.
On aurait pu prendre n'importe quel support. Et il se trouve que là, on a pris un support avec les notes.
Voilà.
Mais effectivement, tout c'est subjectif. Et ça peut même être différent des notes que vous pourrez peut-être voir dans le Parisien ou dans l'équipe. Et d'ailleurs, parfois, il y a des notes qui sont assez surprenantes selon l'affinité des journalistes avec les joueurs ou le club en question. Parfois, c'est un peu surprenant. Oui, avec des guillemets, j'y vais. Tu as tout à fait raison.
Hugo valide ta déclaration.
Il paraît qu'on avait un certain gaucher floqué du numéro 25 qui aimait bien appeler les journalistes pour monter ses notes, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais c'est
Je sais
tellement
pas,
vrai qu'ils ont même
les
fini
gens
par
là.
écrire, euh, ils ont même fini par écrire sa biographie ensemble. Donc, je tairai le
Ok,
nom du
ouais.
journaliste et du quotidien en question. Enfin, le quotidien, il n'y en a qu'un seul, donc vous le
Je crois que tout le
devinerez,
monde
je
le
me suis un
sait,
peu
mais bon.
trahi. Bon, bah, Jérôme Rothen, hein, si tu veux venir te défendre, hein, c'est avec plaisir. Voilà, comme ça,
Allez.
le nom est dit. Sur ce turnover, on va d'abord s'arrêter sur l'intégration des jeunes. Parce que comme l'a dit Yacine, et je veux ton avis JB, puis après tu me donneras le tien Clément, c'est vrai que le dernier qui avait peut-être vraiment inclus les jeunes, je pense à Unai Emery dans un premier temps, qui avait fait participer notamment, c'était Nkunku, qui avait pas mal joué sous Unai Emery, d'ailleurs
Kimpembe.
même, ouais, Kimpembe évidemment. Il y a eu aussi Tourelle hein, quand il est arrivé en début de saison, mais alors là c'était plus peut-être parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde. Et du coup, les internationaux, les titulaires étaient rentrés un peu plus tard, mais il avait quand même fini par en intégrer pas mal. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, comme Luis Enrique, comme Unai Emery, coach espagnol, et on sait qu'Enrique a fait débuter un joueur comme Gabi à 18 ans, etc. Est-ce que c'est dans l'ADN de ces entraîneurs espagnols ou pas forcément? Qu'est-ce que tu penses de la gestion, toi, en tout cas? Parce que c'est vrai que les saisons précédentes, que ce soit avec Galtier ou Pochettino, on voyait très bien. D'ailleurs, Zaïre Emery, que tout le monde réclamait la saison dernière sous Galtier, il avait quand même du mal. Hein. Une fois qu'il avait son 11 titulaire qui était en forme, c'était toujours celui-ci qui était aligné. Ça fait quand même plaisir de voir des jeunes, et en plus talentueux. Hein. Je pense notamment au jeune Mayulu au milieu, et Yacine nous en parlera peut-être un peu plus, pardon. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de l'intégration, en tout cas, des petits jeunes?
Juste Mousse, c'est Tourelle qui a
Oui.
lancé le plus de jeunes au PSG.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme je parle d'Unai Emery, c'est comme il était là
Ouais.
avant et qu'il avait fait effectivement Kimpembe, Rabiot, etc. Donc c'était pour ça. Mais vas-y, j'y vais.
Bah, je trouve que ça montre déjà une bonne intelligence dans l'utilisation et la gestion des ressources humaines que tu as à disposition. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a ces joueurs-là, et plutôt que de les laisser sur le banc et donc de les rendre inopérationnels comme avait su très bien le faire Christophe Galtier l'année dernière, bah là, il est capable de les faire progresser, de les aligner sans les cramer, en les mettant dans des conditions où il leur montre qu'il leur fait confiance, il ne les crame pas. Quand il y a des erreurs, il n'appuie pas dessus, comme on a pu le voir sur les 2 dernières saisons. Et c'est quelqu'un qui va finalement les pousser progressivement, leur donner des minutes. On voit Mayulu qui prend confiance. On voit finalement un Zagué bon, qui n'a pas été étincelant. Mais C'est un jeune, il progresse. On lui a montré qu'il pouvait jouer le match du titre aussi, parce que ça aurait pu être le match du titre. Et ça, c'est une vraie marque de confiance. Et puis, vous les intégrez dans le groupe en faisant ça. Je trouve que Luis Enrique est assez intelligent pour justement pas trop les exposer. Vous les voyez pas en conférence de presse. Vous les voyez pas en train de parler pendant des heures et des heures devant les médias. Donc, pour une fois qu'on met en avant les pépites en les encadrant, en les préparant, en gérant bien les minutes, comme Yacine l'a très bien dit au départ, on est sur quelque chose d'assez intelligent, d'autant qu'on a le centre de formation derrière et quelques noms qui commencent à ressortir. Moi, je trouve ça très rassurant pour la suite.
Bah Clément, même question hein, sur la gestion des jeunes. Alors, ça a mis un peu plus de temps hein, cette saison, hein, parce qu'en début de saison, peut-être qu'on les voyait un peu moins. Mmh. Dites-moi si je me trompe. Là, on en voit un peu plus, sans doute aussi, Clément, parce que le titre maintenant est quasiment acquis. Ça permet aussi, effectivement, de protéger les joueurs, parce qu'il y a une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a aussi, n'oublions pas, hein, une finale de Coupe de France à aller jouer contre Lyon. Mais sur la gestion de Luis Enrique, qu'est-ce que tu en penses, toi, Clément?
Il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, je pense que ça s'englobe dans une gestion globale de l'effectif et de la gestion humaine et sportive, physique de Luis Enrique. C'est-à-dire que c'est pas tant le nombre de jeunes qui soient 1, 3 ou 10 à jouer, c'est vraiment leur intégration, la manière dont ils sont intégrés à l'effectif pro et progressivement dans les 11. Déjà, j'ai vu une évolution, moi, par rapport à la première, au match contre Clermont, où les deux jeunes avaient joué, Mayulu et Zay. Je trouve qu'hier, ils étaient plus à l'aise, déjà, par rapport à la dernière fois. Mayulu a pris beaucoup plus de prise d'initiative, beaucoup plus de passes vers l'avant. C'est pareil pour Zay, je trouvais beaucoup plus entreprenant. Alors, ça reste des jeunes, ils sont encore... Il y a beaucoup de passes vers l'arrière, notamment pour Zay, mais je veux dire, c'est quand même... Il y a une prise de conscience, il y a une prise de confiance, et ça, je pense que c'est généré par la gestion de Luis Enrique, qui doit, à l'instar de l'ensemble de l'effectif, bien les gérer. Pour revenir à ce que tu as dit sur les échéances, le fait qu'on soit encore en Ligue des Champions, qu'on soit presque champion, ça, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'hier, il aurait pu mettre Carlos Soler, Ugarte et Kolo Muani. Et au final, il les a pas mis, il les a fait rentrer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie... J'ai pas forcément le mot, mais il y a une vraie stratégie, il y a une vraie intégration, avec possiblement aussi une intégration dans la logique de temps de jeu de ces jeunes. Voilà, peut-être qu'il a programmé un match tous les 15 jours avec eux sur la fin de saison. Je sais pas, ça, j'ai pas l'information, mais vu la gestion humaine de Luis Enrique, c'est fortement possible. Et puis voilà, en fait, tout ce qu'on dit depuis des semaines sur Luis Enrique, sur l'effectif, le fonctionnement. Bah en fait, les jeunes, qu'ils soient bons, moins bons, moyens ou mauvais, en fait, ils suivent la dynamique quelque part, j'ai envie de dire. Ils s'inscrivent dans le collectif, ils s'inscrivent dans la dynamique. Là, ça tourne bien, bah c'est facile en fait, parce que l'ensemble est bien géré, les temps de jeu sont bien gérés, il y a une équité, il y a du mérite. Et bah eux, peut-être qu'à l'entraînement, et bah ils se défoncent plus parce qu'ils savent que bah même si je suis jeune, j'ai 17-18 ans, et bah si je me défonce, j'aurai du temps de jeu. Et tu sais, Luis Enrique, il l'a dit dans une interview à PSG TV, il a dit... Mais moi, 17, 18, 20 ans, mais j'en ai rien à foutre. En fait, Warren Zaïre-Emery, je l'ai fait jouer, il avait 17 ans. Et moi, ce n'est pas l'âge qui m'intéresse. C'est vraiment ce que je vois à l'entraînement et ce que je vois en match. Donc, vraiment, c'est même presque pas une donnée qu'il prend en compte, lui. Sinon, encore une fois, il aurait mis Soler ou Garté hier.
C'est vrai, Yacine, comme le dit Clément, hein, y a, ces jeunes-là aussi, ils sentent aussi peut-être que en travaillant bien l'entraînement, le coach Luis Enrique pourra leur donner du temps de jeu. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avec, je le disais, hein, les coachs précédents, qui avaient, tant que Neymar, Messi, Mbappé étaient en forme, et ensuite, tu parlais souvent d'algorithme, Yacine. En gros, si tu étais international et si tu avais une certaine expérience, que ce soit en France ou à l'étranger, bah, tu étais aligné. De fait, et une fois que tu t'intégrais un jeune et tout, bah, ça ne se passait pas forcément bien. J'avais le souvenir d'un défenseur, j'ai oublié son nom, Yacine, le jeune qui était rentré et qui n'était pas à son poste. C'était une défaite au Parc. Je ne sais plus, c'était contre Reims,
ouais,
ou Amiens.
Contre Reims.
Ah oui, au fond les clubs. Ouais, ouais. J'ai oublié le nom du jeune.
J'avais joué latéral. Ouais.
Exactement, qui était défenseur central.
Pembele.
Non, Pembele était latéral droit, non. C'était pas Pembele.
Pembele, il avait foiré son premier match aussi.
Ça reviendra, il a une bonne mémoire, Yass. Et la deuxième question, Yass, que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu plus du profil de ces deux joueurs? Je crois que Mayulu, il n'est pas en fin de contrat aussi, Mayulu. Je pense que le club aussi a envie de le faire jouer.
Ah, c'est Mbesso, ouais, dans le chat.
Ah, c'est Mbesso, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Donc il y a peut-être aussi la volonté de lui donner du temps de jeu pour lui prouver qu'il pourrait signer son premier contrat professionnel au PSG. Et Zague, peut-être qu'on connaît peut-être un peu moins, si tu peux nous parler des deux joueurs, Yass.
Ouais, alors déjà, pourquoi ils n'ont pas joué en début de saison? Bah, déjà, tu avais le groupe au complet, pratiquement. Ensuite, il y a quand même, malgré tout, une partie de saison à faire avec les 19, avec la Youth League.
Juste, Yass, je te coupe deux secondes. Je sais qu'à chaque fois, on me critique quand je te coupe, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de Bitiabou. Non, je ne parlais pas de Bitiabou. Hein.
Ouais, c'était Mbesso.
Ouais, c'était Mbesso. Ouais. El Shaddai Bitiabou, c'est vrai qu'il a un peu disparu. Je ne sais pas s'il est blessé ou quoi, j'ai pas de news. Mais vas-y, je te laisse reprendre, Yassine.
Et donc, il y a une partie de saison à faire avec les Youth League et enfin... Il y a la compétition de la Youth League avec les 19 et c'est important pour le club en termes d'image, etc. Donc, que les jeunes soient à disposition d'abord des U19, ça fait partie de la stratégie, c'est important. Ensuite, ils sont intégrés régulièrement quand il y a les rassemblements internationaux. Voilà, ils les voient à l'entraînement. Je rappelle que Lucien Riquet, il ne vient pas juste faire son entraînement, il passe beaucoup de temps aussi au campus, qu'il était par exemple au match des U19 contre Dunkerque la semaine dernière. Ça l'intéresse ce qui se passe avec les jeunes, ça l'intéresse ce qui se passe au centre de formation. Il n'est pas coupé du reste du club, en tout cas des joueurs qui sont susceptibles d'intégrer le groupe très rapidement. Et quand tu les vois jouer, entre l'entraînement, les séances d'entraînement qu'ils font avec les pros, plus quand tu les vois jouer, c'est quand même plus facile après d'intégrer des jeunes à ton groupe. Pour revenir sur les jeunes, Mayulu, évidemment. C'est un joueur qui est en fin de contrat, c'est un joueur qui est en discussion avec le PSG, mais pas que. Il y a beaucoup de clubs allemands qui sont sur lui, qui le surveillent parce que c'est un joueur qui a un vrai potentiel, c'est un joueur qui est bon depuis plusieurs saisons. Clément disait qu'il a touché plus de ballons hier, mais en fait, la différence, c'est que contre Clermont, il a joué attaquant côté gauche et que là, il a joué milieu. Et milieu, déjà, c'est son poste de formation. Alors, il est capable de jouer à plusieurs postes, mais il était un peu plus bas, donc c'est logique qu'il ait touché plus de ballons, il était plus au cœur du jeu. D'ailleurs, c'est lui qui décale Dembélé sur le premier but, à la récupération. Voilà, c'est un joueur avec un vrai potentiel, c'est un joueur qui a une excellente première touche de balle, et c'est de plus en plus rare, pour se mettre dans le sens du jeu, on l'a vu encore hier, on l'a vu contre Clermont, il avait été bon contre Clermont. Donc voilà, c'est un très bon joueur, et ce serait bien pour le PSG qui prolonge, parce que malgré tout, c'est un jeune du centre, c'est un jeune avec un potentiel, que Luis Enrique aime les jeunes, qu'il n'a pas peur de les faire jouer. Donc voilà, tout ça, c'est positif. Sur Zague, pareil, c'est le premier match, il avait joué défenseur côté gauche. C'est pas son poste, il est formé à droite, c'est un droitier. Donc c'était un peu plus compliqué. Hier, il a été mieux, logique, parce que c'est son deuxième match. C'est un joueur qui est très tonique, qui a un peu moins de gabarit. Il y avait tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait est-ce que sa taille pouvait être un problème. Non, à partir du moment où latéral droit, t'as pas besoin d'être grand, et ensuite, si tu sais compenser par certaines choses, notamment la puissance athlétique dans les duels, etc., il y a pas de problème. Lizarazu, il faisait pas 1m85 et il a fait une carrière, donc il y a pas de problème là-dessus. Et tous ces jeunes, en fait, c'est la stratégie du PSG aussi d'intégrer au fur et à mesure, avec ce changement un peu de politique sportive, les jeunes du centre. On sait que le PSG a beaucoup de bons joueurs, surtout sur le plan individuel. Et là, la dernière chose, c'est qu'ils entrent pas comme des bouche-trous, qu'ils entrent parce qu'ils le méritent, qu'ils entrent dans une équipe qui a des principes de jeu et donc des repères, et on leur dit pas, bah tiens, vas-y, va jouer au foot, quoi. Non, il y a un rôle, il y a des automatismes, il y a des courses à faire, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est positif, et je me rappelle l'année dernière, il y a 2 ans, par exemple, quand on parlait de ça, souvent, on nous disait « Ouais, arrêtez avec les jeunes. Ouais, arrêtez tout le temps en train de dire que les jeunes, ils sont trop forts. » Non, c'est pas ce qu'on a dit. On disait que les jeunes, ça s'intègre dans un contexte. On peut se rappeler, par exemple, pour aller un peu plus loin, de Paul Le Guen qui avait lancé un paquet de jeunes dans un match compliqué au PSG parce que le PSG souffrait et qu'il avait envoyé tous ses jeunes à la mine. C'est pas ça la gestion des jeunes, c'est pas leur dire ouais vous allez jouer et puis je vous envoie dans un match bourbier. Non, c'est de leur donner du temps de jeu. Quand ça se passe bien, c'est mieux parce que le jeune a moins de pression. Là, le PSG part à Lorient avec 11 points d'avance, donc le jeune il se dit même si je ratais mon match, la saison du PSG elle est pas remise en cause, et c'est ça toute la différence. Quand tu lances un jeune et qu'il est en galère, enfin que tu le mets dans une équipe en galère, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est une vraie gestion. En fait, c'est quoi ? Il y a juste un truc, c'est que on s'extasie en fait sur ce que fait Luis Enrique. Parce qu'on n'a plus l'habitude. Mais en fait, Luis Enrique fait juste son travail de coach. Il met en place des principes de jeu. Il utilise son groupe. Il essaye de concerner tout le monde. Et ça marche plutôt. Il intègre des jeunes au fur et à mesure. En fait, c'est juste... D'ailleurs, c'est même pas moi. C'est même pas pour être péjoratif ou quoi. C'est lui-même qui l'a dit cette semaine dans une interview. Je fais mon travail d'entraîneur. Et mon travail, c'est aussi de gérer les temps de jeu et de faire progresser mes joueurs. En fait, il fait juste son travail de coach. Mais tellement on n'est plus habitué, en fait, ça nous paraît extraordinaire ce qu'il fait. Genre, c'est un truc de fou. Mais en fait, non, il fait son métier, il le fait très bien. Mais en fait, il fait son métier. Voilà, c'est tout.
Y a le jeune Amidou Mané qui me dit « Mousse, ne nous gâche pas le plaisir de la première touche de coach Yacine. » C'est quand je t'ai interrompu, Yacine, tu vois. Je n'ai pas le droit de t'interrompre. Moi, je suis désolé, mon jeune ami. Mais en fait, voilà, je suis obligé. Hein. C'est un débat. Donc, voilà. Il y avait une autre donnée importante, et vous avez commencé à en parler, Clément. C'est notamment sur l'infirmerie, sur le fait qu'il y a quand même beaucoup moins de blessés que ces dernières années, ce qui permet aussi de faire un turnover, parce qu'il y avait des années où il y avait des blessés, des remplaçants même qui étaient blessés. Et du coup, tu avais des coachs qui n'avaient pas de moyens de faire des turnovers. Donc, les joueurs étaient fatigués. Et quand on arrivait à des moments cruciaux de la saison, tu étais obligé d'aligner une équipe qui était parfois rincée, fatiguée. Il y avait même des joueurs importants qui se blessaient juste avant une échéance importante. Et là aussi, on remarque quand même qu'il y a une grande différence comparée aux saisons précédentes. C'est qu'effectivement, le staff médical est plutôt performant cette saison et qu'on a eu très peu de blessés. Alors, on a parlé de Kimpembe, mais c'est un blessé depuis la saison dernière. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas comment,
si, il a repris l'entraînement,
comment il évolue. Ça, il a repris l'entraînement.
Ouais, il a repris la semaine dernière, je crois. Oui, il y a 2 jours.
D'accord, donc c'est quand même récent. Donc là, on est quasiment sur deux saisons blanches. Ouais. Mais hormis ce cas-là, c'est vrai, Clément, voilà, il a un large effectif, Luis Enrique, à sa disposition. Et c'est important de souligner le travail de la cellule médicale.
Ah ouais, bah là, c'est franchement, c'est la configuration parfaite cette saison. On a rien de... On a aucun blessé, quoi. Franchement, on se retrouve en quart. Déjà, on est en demi, mais déjà en quart, on n'avait plus de blessés, je crois. Seulement Barcola qui revenait avant le match aller, mais c'était une blessure musculaire en marge de l'équipe de France. Donc, voilà, c'était pas forcément lié à l'enchaînement des matchs. Ouais, on en a parlé plein de fois dans le podcast en disant que c'était lié, certes, aux performances médicales du staff, mais surtout à la gestion des temps de jeu. Et ça, on l'a évoqué à de multiples reprises. C'est-à-dire que moi, je trouve que le meilleur... Alors, il y a plein de très bons exemples dans cet effectif. Mais tu vois, la manière dont est géré Nuno Mendes, c'est remarquable, je trouve. C'est-à-dire que Nuno Mendes, j'ai appris hier que Lorient, c'était son premier match titulaire en Ligue 1 depuis son retour. Enfin, c'est ce que les commentateurs ont dit, en tout cas. Alors, il faudrait vérifier si c'est vrai ou pas. Mais donc il a joué en Ligue des Champions, effectivement, mais a priori il a pas beaucoup joué, alors peut-être un seul match en Ligue 1. Donc ça veut dire que le turnover, la rotation entre les matchs, tout ça sans affecter le niveau de performance de l'équipe, c'est quand même c'est carton plein, quoi. Après, moi j'aimerais revenir à ce que disait Yacine, parce que Yacine disait finalement il fait son travail, Luis Enrique. On n'a plus l'habitude, mais il fait son travail. Mais est-ce qu'on a déjà connu un entraîneur qui faisait son travail comme ça au PSG ces 10-15 dernières années, avec autant de liberté, autant de possibilités de faire des choix? Et le symbole, évidemment, c'est sa gestion d'Mbappé, hein, parce qu'on voit qu'il ose le mettre sur le banc même 90 minutes un dimanche soir au Parc des Princes contre Lyon. Mais moi, j'ai pas le souvenir, même si Unai Emery, Laurent Blanc, même Ancelotti avaient fait des choix, j'ai pas le souvenir d'un entraîneur qui a autant la maîtrise sur son groupe. Enfin, en tout cas, alors évidemment, on a la culture de l'instant et la mémoire, peut-être qu'on ne l'a pas tout à fait sur les instants des époques précédentes. Moi, vraiment, je n'ai pas le souvenir d'un entraîneur qui mettait... Même Laurent Blanc, il ne mettait pas Zlatan comme ça sur le banc, gratos, etc. Franchement... Alors,
il faut aussi préciser, Clément, que c'est peut-être aussi un tout petit peu plus facile pour lui quand, dans le vestiaire, tu n'as plus quelqu'un comme Neymar,
évidemment,
tu n'as plus Messi, évidemment, tu n'as plus Verratti, tu n'as plus, comment il s'appelle, Paredes. Mmh. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y avait un petit clan sud-américain, Di Maria, même si honnêtement moi je regrette vraiment que Di Maria ne soit pas resté. Je pensais qu'il méritait, enfin je trouvais que sur toute la carrière qu'il a au PSG, il méritait d'avoir une prolongation. Mais on sait tous que c'est vrai que c'était un vestiaire qui était un peu divisé, il y avait des fortes personnalités, et lui il a eu la chance évidemment aussi de pouvoir dire non, je ne veux pas d'un tel, je ne veux pas d'un tel, je ne veux pas d'un tel. Et effectivement, même s'il reste quand même Mbappé qui a lui aussi, hein, une forte personnalité au sein du vestiaire, il y a un gros ego. Mais ça reste quand même un peu plus facile, je trouve, pour Luis Enrique de gérer de gérer ce vestiaire comparé à ses prédécesseurs, quoi.
On me parle de Tourelle là, dans le chat ces 6 premiers mois. C'est vrai que c'était vraiment très très bon.
Ah oui,
Mais
bien sûr.
la défaite contre Manchester est venue complètement dézinguer tout le travail qu'il avait fait. Et derrière, c'était la débandade. Finalement, même ça, c'était venu cacher, entre guillemets, sa stratégie avec la mise en place du 3-5-2. Il avait instauré Marquinhos en milieu, Danilo derrière. Il y avait des vrais choix à l'époque. Je crois que même Draxler, à un moment donné, était placé dans un milieu à deux. Il y avait des vrais choix, il y avait des vraies prises de décision. Mais franchement, j'ai pas le souvenir de ça. Donc, c'est vrai, c'est normal. Quand Yacine le dit comme ça paraît normal, tout à fait. Mais au final, on a peu de références, en fait. On a peu de références. Donc, c'est normal, mais c'est un peu exceptionnel quand même au PSG. Donc, faut le souligner.
Il y a un exemple quand même qu'on oublie de citer, c'est quand Unai Emery décide de laisser Thiago Silva sur le banc pour mettre Kimpembe. Ça avait été une décision plutôt courageuse. Il y a Fandresena qui me somme Jean-Baptiste, qui me dit Mousse, il faut faire parler Jean-Baptiste, donc je te donne la parole Jean-Baptiste. Je ne veux pas te faire
J'arrive.
taper sur les doigts.
Non, mais je vais aller dans le sens de Clément. Avant que tu en parles, Clément, j'étais en train de repasser la totalité des saisons de QSI et je n'ai pas le souvenir d'un entraîneur qui ait à la fois été autant épargné par les blessures, qui ait aussi bien géré les suspensions et les cartons. Parce que c'est ça aussi, c'est la première fois qu'on est dans un dernier carré de Ligue des Champions avec juste un titulaire potentiel, Kimpembe, mais l'était-il vraiment au début de la saison? Je pense pas. Et je trouve qu'on a une gestion qui est probablement l'une des plus surprenantes depuis que le Qatar a racheté le club. Et si on rajoute les années colonie capitale derrière, bah, tu as un peu l'impression que cette saison, c'est aussi la plus maîtrisée et qu'on a pour la première fois des voyants verts qui s'allument un peu partout.
Il y a deux choses, Jean-Baptiste, il y a deux choses, excuse-moi, je te coupe, qu'il va falloir quand même
Non,
surveiller.
tu ne me coupes pas d'abord, tu ne me coupes pas, vilain.
Non, en fait, on peut couper tout le monde sauf Yacine. Voilà.
Ok.
Voilà.
Non, désolé,
Coupez-vous la
parce que
parole sauf Yacine.
après je vais perdre l'idée, mais il faudra surveiller l'enchaînement Euro-JO, parce que la saison prochaine risque d'être plus compliquée. Et l'autre chose, et c'est vrai qu'en général, les grands entraîneurs, on le voit, Arteta, Guardiola, etc., ils ont des premières saisons plus compliquées pour installer leurs idées sur la durée. Là, Luis Enrique, il est parti en feu tout de suite, entre guillemets. La première saison, elle est parfaite. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas une descente, entre guillemets, les prochaines saisons et qu'il va pouvoir poursuivre cette progression. Ça serait vraiment dommage de partir aussi vite et de partir comme un lion et de finir comme un con.
Oh, elle est pas mal
Oh,
celle-là.
très bien,
Mais
d'humeur philosophique, le jeune
ouais,
Clément. Ah,
franchement, il
vas-y,
a
vas-y.
travaillé. Hein, il a travaillé. Hein. Non,
Incroyable.
ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que Luis Enrique, finalement, c'est le deuxième entraîneur vraiment référencé qui arrive chez nous. Alors, avec tout le respect que je peux avoir pour Unai Emery et les autres, hein, avec Ancelotti, c'était deux valeurs sûres en arrivant, avec une vraie expérience multiple. Ils ont imposé leurs idées. Tu as raison, si on se souvient des premières semaines de Luis Enrique, on le regardait avec une sorte d'étrangeté. Alors, certains n'ont toujours pas décroché hein, de cette idée qui servait à rien, alors qu'aujourd'hui, il a clairement montré qu'il était quand même largement au niveau. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qui va être intéressant, c'est non seulement la transition Euro-JO pour. La gestion de l'effectif, la manière de continuer à mobiliser les gens, la réorganisation de l'équipe avec le départ de Mbappé et peut-être d'autres joueurs qu'on va prêter ou vendre, l'arrivée de nouveaux acteurs et puis surtout la gestion aussi du club, la direction sportive. Est-ce qu'on aura encore finalement Campos? Est-ce qu'on va avoir le retour des fameuses manœuvres du PSG capable de se tirer une balle dans le pied entre Inter Enrique et Nasser qui se pique d'être plus qu'un président quand il l'est? Quand il décide de l'être, c'est ça qui va être intéressant. Cette transition-là, elle va être au moins aussi complexe que finalement une après-Coupe du Monde. Surtout s'il y a certains de nos joueurs qui vont chercher des titres.
Merci Jean-Baptiste. Juste pour remercier Harald 92, il y a qui d'autre? Il y a Paris. Et je ne sais plus qui, ils sont très gentils avec moi, qui me disent que ça fait plaisir de. C'est pour mon ego, hein, j'ai besoin qu'on flatte mon ego. Donc, je remercie les camarades du chat qui sont contents de me revoir. Et moi, je suis très content non seulement de revenir dans le podcast, mais de pouvoir échanger avec tous ceux qui sont sur le chat. Yacine, à toi la parole. Hein, oui, dis-moi Yacine, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, non, je voulais
C'est
revenir sur
toi le
deux, trois
patron,
choses.
moi je.
Non,
Bah
non.
justement, j'allais te donner la parole.
Ah oui, justement, je lève la main pour demander la parole.
Vas-y, As, tu reviens sur absolument tout ce que tu veux. Moi, je
Mais
ne veux
je
pas
veux un
d'histoire avec
cassez-vous
toi.
aujourd'hui. Je veux un cassez-vous,
Voilà.
moi. Ah non, il n'y en a
Non, moi,
pas
je.
là. Non, en fait, alors, la première chose, c'est qu'il faut quand même aussi pas tout enjoliver, même si la période voudrait ça, mais Laurent Blanc, il avait aussi des contraintes. On dit, ouais, il ne mettait pas Zlatan sur le banc et tout. C'était un autre PSG, c'était un autre moment de l'ère QSI, avec aussi un développement marketing qui devait être hyper important, etc., pour pouvoir avoir un budget conséquent et se rapprocher des meilleurs clubs européens, tout ça. Il faut le prendre en compte. On ne peut pas tout de suite dire, ouais, c'est qu'une question d'homme, et peut-être que Luis Enrique, de 2012 à 2016, il fait pas les mêmes choix, et c'est comme ça. Tu peux, il y a un moment donné où le club est important et ça, son développement aussi. Et à ce moment-là, il y avait, tu vois, il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat, je lisais, qui disait, non, non, mais de toute façon, c'est Zlatan qui mettait Laurent Blanc sur le banc. Voilà, c'est un peu ironique, mais tu vois, il y a aussi des contraintes comme ça. Quand Tourelle parle de politique, il a raison aussi quand il dit, à un moment donné, je faisais de la politique, parce qu'on était dans une période du PSG qui était en plein développement, la marque était en train d'exploser, et tu ne pouvais pas non plus, avec l'histoire de la Coupe du Monde au Qatar, bref, on va pas revenir là-dessus, mais tu pouvais pas non plus tout stopper sous prétexte qu'un entraîneur avait décidé de faire des siennes. Et il y a des contraintes. Ancelotti l'explique très bien. Je suis entraîneur, je dois faire la meilleure équipe. Mais à un moment donné, quand mon président vient me voir et me dit, je dois le transférer lui, tu me le fais jouer. Bah moi, je suis salarié du club et je le fais jouer. Voilà,
Sauf que
ça nous
Yacine,
fait chier. Ouais.
tout le monde, tous les coachs ne réagissent pas comme Ancelotti. Et ça, tu as raison là-dessus. Ancelotti, c'est quand même très politique. Il réclame jamais des joueurs. Il fait avec ce qu'on lui donne, etc. Il a la chance quand même d'être au Real Madrid, qui font en
Non, mais.
général des très bons recrutements. Et ce qui se passe aussi, Yacine, il faut le souligner, c'est que ça faisait longtemps qu'un directeur sportif ne s'entendait pas aussi bien avec son coach. C'est-à-dire que ce que tu soulignes sur Tourelle, par exemple, Tourelle était en guerre ouverte avec Antero Henrique. Et ça a été pareil, il y a eu Leonardo qui avait eu des problèmes avec je sais plus qui. Enfin bref, ça faisait longtemps aussi. Et Laurent Blanc, tu parlais de Laurent Blanc qui n'avait absolument pas son mot à dire à l'époque. Il était tellement heureux de pouvoir gérer un tel effectif. Et je le comprends d'ailleurs, hein, c'est tout à fait normal. Mais pour les autres, ça a été plus dur, Yacine. Et là, aujourd'hui, avec
Oui,
Luis Enrique, on sait qu'il y a une
mais
vraie
tu
entente
vois,
avec Luis Campos.
c'est vrai. Mais comme on le disait, par exemple, encore une fois, ni à sa charge ni à sa décharge, parce que c'est un contexte. Luis Enrique, il tombe dans une équipe où tu as des jeunes qui n'ont rien prouvé et où tu n'as pas trois stars à gérer. Donc, on est obligé de tenir compte de ça. C'est trop facile de dire, ah, Luis
Bien
Enrique,
sûr.
c'est le meilleur. Et voilà, donc faut quand même minimiser. Après, ça ne veut pas dire qu'avec les trois, il n'aurait pas géré. En tout cas, voilà, il gère très bien, il n'y a pas de problème. C'est tout. Après, la deuxième chose, c'était sur les blessures. Alors effectivement, je confirme, j'ai été regarder, Mendes, c'était bien sa première titularisation en Ligue 1 cette saison. Il a fait que 5 matchs en Ligue 1 d'ailleurs depuis sa reprise. En même temps, on a l'impression qu'il a repris depuis longtemps, mais finalement, il a repris que fin février, hein, et on n'est que mi-avril. En fait, il y a deux choses. Il y a le staff médical, la préparation athlétique, très importante. Il y a la gestion des temps de jeu, très importante. Mais il y a aussi, encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière et je vais le répéter, le fait que ce PSG-là ait des principes de jeu et un collectif qui soit en progression, que les joueurs aient des temps de jeu, tu n'es pas dans l'obligation de faire revenir un blessé dans l'urgence, comme ça a été le cas avant, en disant bah, l'équipe type, s'il n'y a pas Verratti, s'il n'y a pas lui, s'il n'y a pas lui, on est mort et tout. Donc Verratti, 3 semaines de blessure, bim, il revient, il est titulaire. En fait, tu n'as pas cette obligation parce que comme tu as tout préparé, tu as donné du temps de jeu, tu as préparé des choses toute la saison. À un moment donné, quand il y a un blessé, bah, tu n'es pas obligé de le mettre titulaire. Voilà, parce que l'équipe, elle tourne sans lui. Et ça fait partie de tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses, le staff médical, la préparation athlétique, la gestion des joueurs, le fait que Luis Enrique gère les joueurs en accord avec le staff médical, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important et qui s'est souvent passé au PSG, à savoir que le staff médical disait quelque chose et les entraîneurs faisaient autre chose, ou que les joueurs avaient envie de jouer et donc qu'on les mettait sur le terrain parce qu'ils avaient décidé de jouer. En gros, Luis Enrique, il te dit, moi, si le blessé, ok, il a envie de jouer, mais moi, si je considère qu'à ce moment-là, il ne doit pas jouer, eh ben, c'est moi qui décide qu'il ne joue pas. Voilà. Donc, il y a tous ces petits éléments, quand tu les mets bout à bout, bah, évidemment qu'encore une fois, on va dire, la saison se déroule bien. Moi, je continue de penser qu'elle se déroule bien parce que tu as tout fait ou tu as mis plein de choses en concordance pour qu'elle se déroule bien. Voilà. Et c'est quand même quelque chose de très important.
Ne t'énerve pas, Yacine, on est d'accord avec
Je
toi.
suis calme.
Calme-toi, Yacine, calme-toi.
Ouais, mais là, je sentais que tu voulais un peu dégoupiller, donc je remets un
Non, pas
peu
du tout.
de. Voilà,
T'as
j'ai
un avion
pacifié les
demain matin,
choses.
Yacine. T'as un avion, je te
J'ai un
rappelle.
avion. J'ai un avion, j'ai un avion.
Et ouais, tu te rends compte, Jean-Baptiste, là, c'est deux petits cochons là qui vont aller au soleil, et puis nous, on va rester
Ouais, ils
là,
partent
en
tous là. On
France.
n'est même pas
Ah, ils
invités, tout
partent
ça.
tous. Ah, non,
Bon, par
rien,
soleil.
rien.
Non, mais
Non, mais
je
vous
précise.
allez
Attends,
arriver,
attends,
vous allez
attends,
arriver à
attends, attends, attends,
l'aéroport.
attends, 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 attends. On va mettre les choses au clair. Je pars travailler. Que les choses
Oui,
soient
on va
claires.
travailler,
Et
travailler, travailler.
si, et je mettrai des preuves sur les réseaux pour bien voir que je pars travailler. Alors certes,
moi, je prendrais. Voilà. Moi aussi, je pars travailler, je mettrai l'épreuve.
Voilà. Et moi, je prendrais les photos de Clément et je les comparerais, tu vois.
Ouais.
Et je ferais avant, après.
D'ailleurs, je suis beaucoup plus inquiet du séjour de Clément que celui d'Yacine. Je dois l'avouer. Ils vont dans un pays, je ne dirais pas lequel, mais qui est cher à mon cœur. Donc, pour ceux qui me connaissent, normalement, ils devraient pouvoir trouver.
Attends, parce qu'on m'a déjà posé la question dans le chat, donc je vais répondre tout de suite. Je pars au Maroc pour un tournoi au travail. Voilà. Il y a un tournoi des académies au Maroc. Et en fait, je vais voir des matchs. Quoi, voilà.
Voilà, tu vas voir des matchs pour repérer aussi quelques jeunes talents. Tu vas faire ton travail, en fait. Tu vas faire ton voilà. travail. Il y a quelques rapports sur quelques joueurs, etc.
Parce que peu il y aura l'académie Mohamedis ou pas?
Oui.
Ah, évidemment.
Ah, ça m'intéresse.
C'est la meilleure. On en parle. Tu prends un billet pour Agadir et tu...
Alors, je vais faire mieux que ça, les gars. Je vais faire mieux que ça.
Voilà, Jean-Baptiste a des connexions au Maroc. Hein. Il y a été pour le travail lui aussi. Voilà. Donc,
Jean-Baptiste, je me suis même embrouillé avec le responsable de l'Académie Mohamed VI devant 400 personnes.
Alors, ça, c'est pas bien. Ça, je dénonce ça à Jean-Baptiste. Plus jamais, s'il te plaît. Hein. Fais attention.
Mais mon prochain bouquin sera sur le Maroc. Donc, sur le Maroc et le foot. Et donc, il y aura une préface de Yacine, je vous le dis tout de suite. Il ne le sait pas encore. Et Clément, lui, sera notre fixeur sur place. Pour trouver les meilleurs endroits pour faire la fête. Voilà.
Ah bah non, c'est à moi qu'il faut demander. C'est moi qui suis de Marrakech, moi qui connais très bien le Maroc, même si je ne fais plus la fête parce que je suis un vieux maintenant. Mais je te filerai quelques adresses, Clément, t'inquiète pas, ça reste entre nous.
On avant va de délocaliser PU au Maroc.
Ça serait bien. Oui, mon ami.
Il y a des gens qui nous écoutent depuis la Norvège, depuis le Texas. Il faut les saluer.
L'Australie.
Ouais, l'Australie, tu demandais tout à l'heure, alors il faut qu'on te le dise quand même.
Il y a François. C'est vrai que j'ai pas vu, mais n'hésitez pas à, comme je l'ai dit au début, hein, mettez vos pays d'origine, pardon. Ouais. Et c'est toujours intéressant, mais Australie, Suède, Norvège, incroyable. Franchement, moi, à chaque fois, ça me surprend. Le mieux, c'est Agadir. Bah oui, Agadir, c'est Orsi qui nous dit ça, mais Agadir, je connais très très bien Agadir. Je connais Agadir comme ma poche. Voilà, on connaît très très bien ça, comme Marrakech. Une petite pause like, les amis. Qu'est-ce que je vois là? 658 personnes pour 235 likes. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, c'est pas parce que j'ai plus la photo de l'infâme chevelu de Rome, ex-infâme chevelu du sud de la France, qu'il faut arrêter de liker, les gars. C'est important pour le référencement, comme vous l'avez déjà dit. Donc. Il n'y a pas de pause musicale aujourd'hui, mais si Yacine veut faire un petit pas de danse, moi je
suis... Non, j'ai dit si on gagne la Ligue des Champions, vous enfermez pas non plus.
Alors,
ah oui, d'ailleurs, rien à voir, mais juste avec les blessures.
Pas de problème.
Vu que Kimpembe a repris l'entraînement, bon, ce serait sympa qu'il joue quelques minutes le dernier match pour être champion. Parce que je rappelle quand même que cette saison, il n'est pas champion.
Comme Kurzawa, c'est possible.
Comme Kurzawa, non? Kurzawa n'a pas joué.
Je sais pas si c'est possible. Ouais, l'état de. Là, il n'a pas joué depuis 2 ans, quoi, 1 an et demi.
Ouais, mais il reste un mois. Après, non, mais quand je dis rentrer, il peut rentrer 4 minutes à la fin du dernier match. Hein, c'est pas un problème.
Hein. 20 secondes le dernier match.
Il se pète.
Je sais plus qui avait donné du temps de jeu à Ronan Le Chrome au dernier match à Lorient.
Ancelotti.
Ancelotti, voilà. Donc, tu vois, tout est possible.
Ça avait été très apprécié par tout le monde. Le groupe, le joueur.
Ouais. Et vraiment... il se fait expulser. Mais c'est ça qu'on
dit dans les buts. Oui, il se fait expulser.
Ouais, en plus.
Bien, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Alors, on dit que Kurzawa a joué. Vous êtes sûr que Kurzawa a joué?
Je vais vérifier.
Oui, il a joué.
Au tout début de saison. C'est possible. Je crois qu'il est rentré un match.
En fait, Lucien Riquet, ça le faisait chier de le faire jouer ensuite. Donc, il s'est dit, vas-y, je vais niquer le quota tout de suite. Je vais le faire jouer à la première journée.
Bah écoute, il aura sa médaille et sa prime de champion. On va passer à l'autre thème, messieurs, c'est sur l'efficacité offensive retrouvée. Alors, c'est vrai qu'en termes de recrutement offensif, Paris, cet été, a mis les moyens. Hein. On rappelle qu'il y a eu Colomani, Gonçalo Ramos. On peut aussi compter le jeune Barcola, hein, venu de Lyon, pour pas loin de 50 millions d'euros, ou un petit peu moins en tout cas. Et comparé aux saisons dernières, effectivement. Alors, l'année dernière, c'est vrai que Messi a mis beaucoup de buts, il avait des stats, Mbappé aussi. Mais là, on a l'impression quand même sur cette efficacité offensive qu'elle est un peu plus répartie. Il y a beaucoup de monde qui marque. Dembélé commence à se réveiller, même si en termes de stats, bon, bah, cette saison, il a été important hein, dans le jeu, mais En stats, c'est pas trop ça. Mais on voit que Vitinha marque beaucoup. Gonçalo Ramos, si on ramène son temps de jeu, le ratio temps de jeu et but marqué, c'est franchement pas mal. Mbappé, évidemment, qui caracole en tête des meilleurs buteurs. Comment vous l'expliquez cette saison, là aussi? C'est quoi? C'est le coach, c'est la patte du coach, c'est le fait qu'il y ait peut-être l'absence de Neymar et de Messi. Donc les joueurs ne cherchent pas constamment ces deux joueurs, ce qui était le cas les saisons précédentes. Est-ce que vous avez une explication? Allez, on commence par toi, Jean-Baptiste.
Bah, je pense que c'est déjà le résultat et le corollaire du nouveau projet de jeu mis en place par Luis Enrique. Il a responsabilisé tout le monde et en responsabilisant tout le monde, il donne aussi de la confiance à tout le monde. On l'a vu avec Vitinha. Je me demande d'ailleurs si on n'est pas le club à avoir marqué le plus de l'extérieur de la surface et si sur les 10 dernières saisons du PSG, c'est pas la saison où on a le plus marqué de l'extérieur. Ça
Si, si.
dit quelque chose hein, de l'état d'esprit. Nos milieux marquent et on est aussi moins dépendant. De ceux qui bouffaient le ballon. Et ça se voit. C'est-à-dire que on voit un joueur comme Ramos s'illustrer, on voit Barcola qui prend sa chance, alors que si on se souvient du premier match contre Dortmund, c'était quand même pas fou. On voit les joueurs progresser, combiner ensemble. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la variété. On n'a pas simplement systématiquement le même type d'action, c'est-à-dire la stéréotypale action à la Mbappé, c'est-à-dire un crochet, tu pousses ta balle, tu fais un crochet, tu pivotes, soit tu frappes, soit tu passes. On a des actions en transition rapide à 1, 2, 3 joueurs. On a des actions construites. On marque aussi parfois de la tête, peut-être pas assez. On marque de loin. Et ça, je pense que le crédit, c'est d'abord à Luis Enrique qu'il faut l'accorder. Et ensuite aux joueurs qui ont réussi à prendre leur chance, parce que c'était quand même pas gagné. Et je pense que c'est une combinaison de tout ça. Moi, je pense que c'est ça qui fait vraiment la force aujourd'hui offensive de cette équipe, c'est que la menace vient de partout, alors qu'avant c'était simple, il suffisait de bloquer un des trois, voire les trois, et c'était réglé. Là aujourd'hui, bah, on peut marquer partout.
C'est vrai, Clément, hein, sur la variété des buts et aussi le fait qu'aujourd'hui dans cette équipe, il y a un milieu qui peut marquer, un attaquant, un joueur de côté comme Barcola. L'exemple type, ce serait peut-être même Vitinha, hein, qui on se rappelle l'année dernière les rapports difficiles qu'il avait avec certains de ses coéquipiers, notamment Messi et Neymar. Dès qu'il tentait une frappe, il se faisait tout de suite engueuler sur le terrain par l'Argentin ou le Brésilien. Et on sent que cette saison, il est totalement libre. Et ça lui permet de beaucoup marquer. Et si on fait le comparatif avec Verratti, qui est un joueur extraordinaire, évidemment, mais qui, lui, ne tentait pas beaucoup de buts, Vitinha, non seulement cette année, c'est un peu la révélation, mais surtout, c'est quelqu'un qui n'hésite pas et qui est plutôt un excellent buteur, et notamment en dehors de la surface.
Alors déjà, on ne critique pas Verratti, parce qu'il y a Yacine dans ce podcast. On n'a pas le droit de
Mais
critiquer
on ne critique
Verratti.
jamais Verratti. Moi, je suis tout à fait comme
Non.
Yacine. Je n'oublie pas ce qu'il a apporté à ce club. Évidemment qu'il avait des défauts. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais non, impossible de lui cracher dessus. Ce n'est pas possible.
Non, pour répondre à ta question, en fait, Luis Enrique, en début de saison, il avait, parmi ses deux préceptes importants, il y avait à la fois la polyvalence des joueurs. On l'a vu, tu l'as dit, avec Vitinha, qui a joué ailier gauche et milieu. On l'a vu avec Dembélé, qui a joué ailier droit et faux neuf. On l'a vu aussi avec Barcola, qui a même joué à droite à la Sociedad. Et l'autre point clé, c'était la liberté. C'est-à-dire que ces joueurs devaient être movibles sur le terrain, devaient pouvoir bouger, devaient pouvoir circuler. Et moi, je pense que c'est cette flexibilité, je pense que c'est cette adaptabilité, pardon, qui permet aux joueurs d'être plus efficaces et qui leur donne aussi un surplus de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG, et on l'a vu ces dernières semaines, peu importe la compo, peu importe l'animation, peu importe les joueurs, en moyenne, tu mets 4 buts par match. Parce qu'en fait, ils sont arrivés à un stade de la saison où, peu importe avec qui ils jouent, ils sont capables de s'adapter, les mecs, à n'importe quelle configuration. Quand Ramos joue, on voit que l'équipe centre beaucoup plus. On a vu avec Hakimi contre Lyon, il a mis beaucoup de centre dans la surface. Voilà, une autre corde à notre arc. Expression, petit clin d'œil à Hugo qui n'a pas su la dire à la fois.
Il
Qu'est-ce que tu m'avais
avait
dit?
dit une flèche à mon
Une
arc.
flèche.
Voilà,
c'est une corde, Hugo, c'est une corde. Et
Cette expression, il faut dire qu'elle est casse-gueule. Hein. Il faut
avec
éviter
casse-gueule,
l'employer. Hein.
voilà, c'est ça.
Non, parce qu'il y en a tellement qui se sont trompés qu'il y en a, il y a des fausses expressions qui sont rentrées dans ta
Bon.
tête.
C'est un arc avec des cordes. Donc
Arrêtez
voilà.
de vous moquer de lui. Déjà, c'est dur. Il n'a pas de connexion. Il avait un problème de cheveux et tout. Franchement, vous n'êtes
D'ailleurs,
pas sympa, les gars. Vous n'êtes pas sympa.
JB, d'ailleurs, à ce sujet, je te laisserai finir après, Clément. En termes de connexion pourrie, je pense que j'ai cédé ma place à Hugo. Parce que je vous
Alors
suis
là,
quand
Hugo,
même
il
à
est... là, il
tous vos
masterise.
podcasts. C'est incroyable. Donc, je ne veux même plus qu'on parle de ma connexion, qui est d'ailleurs impeccable, comme vous pouvez le
Très bonne,
constater.
Jean-Louis.
Magnifique. Évidemment. Ah, mais oui, mais attention. J'ai investi, les amis. Attention. Vas-y, Clément. Je laisse finir.
Non, et en fait, ça permet d'avoir un niveau de performance qui est quasiment équivalent à chaque fois, puisque peu importe la config, peu importe le système, peu importe les joueurs que tu as à côté, tu as pris l'habitude, tu as pris l'habitude de jouer avec dans plusieurs systèmes, dans plusieurs animations, à plusieurs positions. Donc moi, je l'explique comme ça. Je pense qu'il y a une forme d'adaptabilité qui fait que aujourd'hui, les joueurs sont prêts, peu importe la configuration. Et après, tu peux ajouter à cela, évidemment, le talent individuel, hein. Quand tout ça fonctionne, bah, tu as de la confiance. Et quand tu as de la confiance, tu as le talent individuel qui ressort. Le meilleur symbole, c'est Ousmane Dembélé, qui était blessé la moitié des saisons, ces dernières saisons. Et là, il joue, il marque. Voilà, enfin, on se moquait de lui un peu en milieu de saison parce qu'il marquait pas beaucoup. Bah, là, il est en pleine bourre. Et on voit très bien que les enroulés, pied gauche, extérieur, enfin, à l'entrée de la surface, bah, on voit le talent du mec quand même. Vitinha, quand il met des timbales de 20 mètres à chaque match, bah oui, forcément, le gars, il est en confiance. Mais pourquoi il est en confiance? Parce que Luis Enrique, toute la semaine, il lui dit, mais prends ta chance, je pense. Enfin, voilà, il lui dit, vas-y, tape, de toute façon, personne ne te jugera. Et c'est comme ça. Et c'est une configuration, c'est un collectif qui a été mis en place. Et du coup, bah, tout ce qui est de positif en ressort.
Alors sur le chat, il y a Camis Métis qui nous dit Luis Enrique utilise toutes les qualités de ses attaquants. Il mise clairement sur l'explosivité des joueurs offensifs et des latéraux. Il y a Ludwig qui nous dit l'année dernière, il devait compenser les trois divas. Il avait plus de jus pour finir. Après, surtout en fin de saison. Alors, c'est peut-être qu'il parle de Mbappé. Sur ce thème, Yacine, tu es d'accord avec JB et Clément sur cette efficacité retrouvée? Et est-ce que pour toi, Luis Enrique a réellement joué un rôle dans tout ça?
Clairement, il a joué un rôle. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit sur la variété des attaques, sur le fait que tu es plus imprévisible, donc c'est moins lisible pour l'adversaire, etc. Moi, je pense qu'il y a un élément clé, c'est la confiance, en fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit après Newcastle sur Barcola, en fait, c'est ça la confiance. Et on sait qu'un joueur de, un joueur de, un sportif de haut niveau, de très haut niveau, estime que c'est à peu près 50% de mental, des fois c'est plus. Et en fait, la confiance, c'est quoi? C'est tu as fait une très bonne entrée, tu as manqué d'efficacité, tu as raté des occasions, mais moi je t'en veux pas parce que je suis content de ton entrée, de ce que tu as apporté, etc. Et ça va venir. Contrairement à d'autres coachs qui vont aller en conférence de presse et dire ouais, bah ouais, on a manqué d'efficacité, et en fait, on va pointer du doigt ce manque d'efficacité pour expliquer un mauvais résultat. Là, c'est pas ce qu'il fait. Donc les joueurs se sentent soutenus par le coach et c'est pas que de la façade. L'autre chose, la confiance, c'est quoi? C'est ce que fait Dembélé. Alors, vous reprenez le podcast d'il y a 15 jours, 3 semaines où il rate 3 occasions et je crois que c'est contre Marseille. Il frappe, il essaye de frapper fort. Il essaye de frapper fort parce qu'en fait, à ce moment-là de la saison, il est en manque de stats. Et donc, dans sa tête, et en plus je l'ai expliqué ce jour-là, souvent les joueurs pensent que plus tu vas frapper fort, et plus tu as de chances de marquer. Or, c'est tout l'inverse. Parce que plus tu frappes fort, moins tu vas être précis. Donc, il y a des chances que ton ballon ne soit pas efficace. Et sur ces frappes fort en plus, il se positionnait mal, il essayait d'enrouler et de mettre fort, il prenait mal le ballon, etc. Sa frappe d'hier, c'est tout l'inverse. Il y a aucun. On dirait aucune puissance parce que faut pas abuser, mais elle est posée, voilà, intérieur du pied, un peu enveloppée, loin du gardien, elle n'est pas hyper puissante, mais elle est là où il faut parce qu'il est serein, parce qu'il sait qu'il n'a pas de pression, parce qu'il s'écarte tranquillement de la défense. En fait, c'est ça. Et l'autre chose, et je vais parler aussi d'Mbappé, le but d'Mbappé, par exemple, sur le deuxième où il enveloppe,
En bien, tu veux en
qu'est-ce que.
parler ou c'est comment?
Ouais, non, bien. Qu'est-ce qui
Alors,
se passe?
on n'est pas
D'ailleurs,
habitué, les gars, là. On n'est pas habitué, là.
Yacine, il faut que tu nous parles du. Parce qu'il y a, y a, y a, y a un débat hein, sur la fameuse Madjer. Toi, tu connais bien Rabah Madjer, hein, légende du football algérien. qui remporte la Ligue des Champions avec le FC Porto, c'est ça,
Ouais,
Yass,
ouais.
si je ne me trompe pas.
Et Arthur Georges, d'ailleurs, au passage.
Et Arthur Georges, évidemment. C'était une Madjer ou c'était pas une Madjer selon toi,
Non,
Yass?
c'est pas une
Pas du
Madjer.
tout,
La
hein, on
Madjer,
est
c'est une
d'accord.
talonnade dos au but avec le talon. Voilà, vous faites ce que vous voulez maintenant, mais ça, c'est pas une Madjer. Maintenant, on a mis un
C'est
peu
bien
tous
de le
ces gestes-là
préciser.
en Madjer, mais c'est pas une Madjer. Madjer, c'est une talonnade dos au but. Voilà.
Ok.
Donc, je reviens sur Mbappé. Sa frappe a enroulé. Déjà, un, elle prouve que il a décidé d'arrêter sa frappe intérieure parce qu'elle devient lisible. Et il va chercher le deuxième poteau. Et ça, c'est quelque chose de très important. Un, parce qu'il est capable de le faire. Deux, parce que ça veut dire que les prochaines actions, au lieu de fermer le premier poteau parce qu'on sait qu'il va faire ça, eh ben, en fait, les défenseurs ne sauront plus trop où se mettre parce que est-ce qu'on ferme le deuxième poteau, est-ce qu'on ferme le premier poteau? Cette variété va lui offrir des possibilités. La deuxième chose, c'est que Mbappé, quand il est au repos sur certains matchs, alors il y a ceux qui disent sanction, le coach il se prend pour un autre, il veut montrer que c'est lui le patron, etc. Et puis il y a ceux qui pensent que de toute façon, un joueur aujourd'hui, il ne peut pas être performant 65, 70 matchs si on ajoute les sélections, etc. Pas physiquement, encore une fois, mais mentalement. Quand tu coupes, ça te fait du bien. Et comme par hasard, physiquement, ça te fait du bien, parce que le mental et le physique sont liés. Hier, il a du jus, il est investi. Comme par hasard, il est investi. Alors, il ne fait pas non plus 25 courses de replacement défensif, on ne va pas abuser, mais il en fait. Et comme par hasard, en faisant, il reste connecté au jeu, et comme par hasard, il est bon, et il est tout le temps disponible, etc. Moi, j'ai déjà expliqué, en prenant l'exemple de Cavani, Cavani, il y en a certains qui te disaient... Arrête de faire des courses défensives parce que tu perds du jus. Ben moi, je suis persuadé que le jour où on aurait dit, si on avait dit un jour à Cavani, reste devant et attends les ballons, ben il aurait été nul parce qu'en fait, c'est sa façon à lui de rester concentré dans le jeu, connecté aux autres. Voilà, c'est de courir. Et en fait, le problème des joueurs, c'est qu'ils pensent qu'en s'économisant, ils vont être meilleurs. Sauf que quand tu t'économises, tu fais pas de course pendant 3, 4, 5, 6 minutes. Et en fait, tu déconnectes du jeu, tu peux faire ce que tu veux. Tu déconnectes du jeu. Le seul qui est capable, entre guillemets, de déconnecter du jeu et de rester performant, c'était Messi. Voilà, parce que c'était sa façon d'être joueur de foot.
Ça,
Mais
on l'a
sur,
vu, ouais.
voilà, mais sur tous les autres joueurs, en fait, il n'y en a pas qui sont capables d'être performants en étant déconnectés. Et donc, Mbappé hier, en fait, j'aime bien parce que ça va toujours être la même chose, le même débat. Mais est-ce que, en fait, ça ne confirme pas ce que je dis depuis des mois? C'est juste que, est-ce que ce n'est pas ce qu'on attend d'Mbappé, en fait, ce qu'il a fait hier? Être connecté, être efficace, donner des ballons et participer à quelques tâches défensives. C'est tout ce qu'on lui demande. Et encore une fois, moi, je n'ai jamais dit que j'attendais d'Mbappé qu'il fasse du Cavani ou d'Mbappé que ce soit un latéral droit. Juste fait quelques efforts. Voilà, bah,
Mais
hier, il les a fait.
d'ailleurs, Luis Enrique l'avait souligné après un match où il avait été très bon et quand on lui a posé la
Arras, je crois.
question. Ouais, il avait tout de suite dit oui, bah, quand il joue avec ses coéquipiers, bah, forcément,
Non,
ça se
c'est
passe
après
très vite.
Barcelone,
Ouais.
c'est après Barcelone,
C'est
parce
après
que ça.
Barcelone, voilà. En tout cas, il avait
Reims.
souligné le fait que lorsqu'il joue avec ses coéquipiers, lorsqu'il est collectif, évidemment qu'il fait un super match. Et encore une fois, c'est un excellent joueur, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous, à chaque fois qu'on a mis des bémols, c'était surtout par rapport à son comportement. Parce que imaginez-vous le talent qu'a ce joueur. S'il le met encore plus pour le collectif, mais là, réellement, il y aura peu d'équivalent sur la planète foot. C'est juste ça le message. Il est hors de, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est des anti-Mbappé. Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir.
Et
On
juste.
connaît le foot et on peut reconnaître qu'il a énormément de talent. Et encore une fois, il nous a sauvés plein de fois les dernières saisons, notamment lorsque Neymar déconne, il a, ben, voilà, physiquement tout en blessé, etc. Ça, on n'oublie pas. Mais voilà, on se dit qu'avec plus de collectifs, avec une meilleure attitude sur le terrain, etc., mais il serait inatteignable. Inatteignable.
Et juste pour sur Reims, c'est en fait, et après les 3 buts, il avait dit, OK, il a marqué 3 buts, je crois, mais je suis pas satisfait de son match. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Voilà. Et en fait, le truc, c'est que je sais qu'il y a plein de gens en ce moment qui pensent que ce qui se passe avec Mbappé, le coach, il n'a rien à voir et que c'est lui qui décide et tout. Mais moi, je vous redis que Mbappé ou pas Mbappé, quand un joueur est un peu bousculé, quand on arrête de tout lui céder, et je prends tout le temps l'exemple de l'enfant gâté à qui on dit oui, bah oui, à un moment donné, il se passe des choses, il y a un comportement qui change. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est humain. Moi, je pense que Luis Enrique a une part de responsabilité dans le comportement d'Mbappé sur les derniers matchs qu'il a joués.
Il y a Paris sur le chat qui nous dit l'extérieur de Solaire qui a terminé au Franprix de Porte de Molitor.
Non, mais faut pas en parler parce que j'ai failli faire un AVC.
rien.
Non, ça, non, mais juste, alors, 10 secondes là-dessus.
Il n'y a rien
Le
qui dure ici
geste,
au pauvre
non,
Solaire.
le geste, il est exceptionnellement grand de
Dégueulasse.
nullité. De nullité. Non, mais de nullité. Il n'y a rien qui va. L'endroit où va le
Pauvre
ballon, la
Solaire.
position du corps, le choix de la. Il n'y a rien qui va. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire que le fameux algorithme qu'aurait mis Solaire titulaire, évidemment que je préfère 1000 fois de voir Mayulu prendre du temps de jeu, gagner en expérience, en confiance, que de voir Solaire. Pff, non, mais c'est l'extérieur du pays, il est. Et franchement, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on note, certains, on rigole et tout, et tout le monde les voit. Hier, l'extérieur, il a fait l'unanimité sur les réseaux. Tout le monde l'a vu, tout le monde était choqué.
Et en parlant de rentrée, Mousse, en parlant de
Vas-y.
rentrée difficile, il y a Colomouani qui a fait une rentrée encore une fois compliquée. Et c'est vrai que Yacine parlait de confiance. Et moi, je pense que vous avez tous vu la scène à la fin du match où Luis Enrique il parle beaucoup avec lui sur le terrain. Voilà, encore une fois, je pense que Colomouani, bon, il est clairement, il a tous les symptômes d'un joueur qui manque complètement de confiance parce qu'il rate des trucs qu'il aurait réussi à d'autres moments de sa carrière et dans d'autres matchs. Voilà, dans le temps de jeu qu'il lui a accordé, il était titulaire contre Lyon. Là, je pense qu'il sera titulaire contre Le Havre. Malgré tout, Luis Enrique insiste. Il va continuer à le mettre, je pense, un match sur deux, un match sur trois, à lui donner du temps de jeu. Mais tu vois, dans la gestion humaine, dans la confiance, hier, je crois que le premier qu'il va voir, c'est Colomouani et il va échanger avec lui 3 4 minutes. Il va lui, je pense, je sais pas ce qu'ils se disent, mais tu vois, ils échangent sur ce qu'il y a amélioré, pourquoi tu as fait tel geste, il vaut mieux faire ça, etc. Ça, encore une fois, ça rejoint la dimension confiance qu'a évoqué tout à l'heure Yacine.
Colomani, d'ailleurs, qui a, il semble-t-il, hein, toujours la confiance quand même de Didier Deschamps.
Bien
Je
sûr.
pense que malgré une saison mitigée, et ça c'est pour être gentil, il ira quand même à l'Euro. Mais moi je voulais juste, parce qu'il y a des débats ces derniers temps que j'entends, notamment à l'after sur Barcola, mais vraiment un mot chacun. Vas-y, JB. Barcola à l'Euro, toi tu milites au vu de sa saison, malgré son jeune âge, parce qu'on rappelle que Coman est blessé. Donc il n'ira sans doute pas à l'Euro. Est-ce que tu penses que lui, malgré son jeune âge, ou est-ce que ça serait peut-être un peu trop l'exposer ou le griller si Deschamps faisait appel à lui pour l'Euro?
Bah, moi, ce que je vois, c'est que ça, c'est d'abord conditionné au nombre de joueurs dans les sélections. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore acté que ce soit 26 joueurs. C'est en cours de discussion. Si on en a 26, il a sa place. Après, en dehors de l'âge, etc., Deschamps, il saura le gérer. Et surtout, je pense qu'il aura besoin de le voir dans un contexte un petit peu plus engagé. Là, il a montré qu'il avait sa place. Quand on voit les autres attaquants français en Europe, qui d'autre peut aujourd'hui se prétendre prendre sa place au regard de sa saison. Qui d'autre peut postuler à sa place? En cinquième choix ou en. Ouais. Est-ce que vous en voyez d'autres, vous? Moi, non.
Ouais, après moi je regarde pas tous les matchs, mais je sais pas, Clément, toi t'en penses quoi? On lui donne sa chance au jeune Barcola?
Bah, si, en fait, l'Euro, c'est un moment de fin de saison. Donc, si tu réagis à la forme du moment, il faut le prendre parce qu'il est en pleine bourre, parce qu'il va t'apporter des qualités de percussion, des qualités de vitesse. Il peut faire des différences. Après, si je te parle pour le PSG, je suis un peu partagé, quoi. S'il fait les JO plus l'Euro, bah voilà, c'est toujours pareil, quoi. Est-ce que
Après, je
c'est pas
rappelle
plus.
que le club, pour les JO, le club a son mot à dire. Hein, donc voilà, c'est pas une compétition UEFA, donc du coup,
Mais
voilà.
il est dans l'âge, il a moins de 23, donc il est dans l'âge des sélectionnables hors liste des trois au-dessus. Donc moi, je pense qu'il fera les JO, Barcola, c'est quasi sûr. Après, voilà, l'Euro. Et de toute façon, même s'il le fait, à la rigueur, il le fera, mais ça peut lui faire gagner en expérience. Il ne sera pas forcément titulaire, donc voilà.
C'est vrai que sur le chat, on parle aussi de Moussa Diaby, pardon, l'ex-parisien, qui
Mais c'est le
aujourd'hui
seul. Qui revient bien d'ailleurs, il fait une
à
bonne fin de
Aston
saison.
Villa. Ouais,
Mais c'est le
qui est
seul
Aston Villa avec
aujourd'hui. Les autres,
Mane.
ils sont derrière. Hein.
Yacine, t'en penses
Donc,
quoi?
moi, je pense qu'il y sera. Je pense qu'il y sera parce qu'en fait, il a un avantage sur les autres. C'est que, un, il joue la Ligue des Champions et Deschamps, c'est un critère très important. Et deux, en fait, il est capable de jouer des deux côtés. Et c'est aussi un profil que très peu ont, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont exclusifs côté droit, il y en a beaucoup qui sont exclusifs côté gauche, il y en a très peu qui sont capables de jouer des deux côtés avec autant de réussite, je parle. Tu peux toujours tenter un joueur des deux côtés, mais ce ne sera pas la même chose. Lui, il joue à droite, il a joué à droite contre la Real Sociedad, il a joué à gauche contre Barcelone avec le même résultat. Donc, moi, je pense qu'il y sera.
Ok, bah merci pour cette petite aparté hein, sur l'euro. Moi aussi, je pense comme vous, hein, je pense qu'il le mérite déjà et je pense qu'il y sera. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec Clément. Voilà, on espère quand même qu'il ne fera pas les deux parce que c'est un risque pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, il faudra qu'on reparle dans un prochain numéro de l'avenir aussi du jeune Xavi Simons, parce qu'il y a des informations contradictoires. Donc, moi, j'espère vraiment qu'il va revenir au PSG, parce que je pense que c'est un joueur taillé pour cette équipe, et notamment avec le coach Luis Enrique. Mais on en reparlera dans une prochaine émission. Dernier thème, messieurs, allez, on a 2-3 minutes chacun, juste pour parler de. Ah, non, il restait deux thèmes, hein. Il y avait Dortmund, j'ai des enseignements pour Dortmund. Alors, dites un mot hein, rapide pour Dortmund, et ensuite, on se posera la question de la place de ce titre dans l'histoire du PSG version QSI. Sur Dortmund, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer notamment sur ces trois dernières rencontres? Ben, je te laisse la parole, Yas, on essaye de faire rapide, comme ça on finira par le dernier thème, parce que je sais que JB, par exemple, a peut-être une deadline.
C'est oui.
Donc voilà.
Dans moins de 10 minutes, je suis en classe.
On va faire très très vite. Deux mots.
Non, mais moi je pense qu'il n'y a pas d'indication dans le sens où il y a une indication sur le turnover et on voit à peu près ce qu'il veut faire. Il n'y a pas d'indication parce que je pense que de toute façon, il y a quand même malgré tout ce qu'on dit, il y a 8 joueurs qui sont presque sûrs de jouer contre Dortmund et puis après ça dépendra de l'animation qu'il veut faire. Il reste un match samedi. Donc moi, il n'y a pas forcément d'indication dans le sens où c'est pas parce que aujourd'hui il y a eu ça, enfin hier il y a eu ça, que contre Dortmund ça va changer quelque chose. Voilà, moi je pense que l'équipe de Dortmund elle est connue à 9 joueurs sur 11 et que après c'est en attaque qu'il y aura un ajustement en fonction de Ramos 9, pas Ramos 9, Dembélé, enfin Mbappé ou Barcola, enfin bon, voilà. Mais il y a pas d'indice. J'ai pas changé d'avis sur ce que je pense de Dortmund à cause du match d'hier.
Allez, rapidement un mot à JB sur ça ou pas d'ailleurs.
Ça reste Lorient. Je suis d'accord. Je pense que Luis Enrique nous surprendra jusqu'au bout. Mais l'ossature de l'équipe qui va jouer les deux matchs contre Dortmund, sauf catastrophe, elle est connue. Et c'est pas le match d'hier qui a changé la donne. Par contre, on a préparé tout le monde pour la double échéance. Et c'est ça le véritable enseignement, c'est qu'on est prêt. Aujourd'hui, il n'y a pas de point noir littéralement pour ça. Et c'est cool.
Contrairement aux
Attends,
saisons
je suis
précédentes où on
obligé.
était toujours inquiet avant des matchs comme ça. Oui, Yacine.
Je suis obligé de lire le commentaire, ce qui était bon, c'est à la pointe 6 semaines qui dit JB, mets-leur une interro surprise et reviens.
Je peux pas, c'est
Mais
des
là, mais
terminales,
oui.
je peux pas. C'est, on est des
Allez.
professionnels, les gars. Ça marche le matin.
Un mot rapidement, Clément, là-dessus, puis après je laisserai la parole à JB, comme ça on pourra le libérer comme ça.
Bah, je pense que Luis Enrique, il a déjà sa compo en tête pour Dortmund. Après, le fait d'avoir vu Ruiz hier et Hernandez, par exemple, pour moi, ça veut dire qu'ils joueront. Parce que quand Yacine dit 9 sur 11, les deux autres, c'est Ruiz et Barcola. En fait, les autres, on sait qu'ils joueront. Enfin, je pense que tu visais cela. Donc, si Ruiz joue hier, sachant que physiquement, on sait qu'il ne peut pas faire non plus deux gros matchs en une semaine, Ruiz. En tout cas, c'est peut-être il a moins de coffre que Vitinha, par exemple, ou que Warren. Pour moi, c'est une indication, c'est que Ruiz jouera à Dortmund. Et la potentielle surprise de voir, je ne sais pas, un Ugarte, un Asensio, un Lee, qui eux n'ont pas joué hier, donc qui joueront ce week-end, pour moi, ça veut dire qu'ils ne joueront pas contre Dortmund. Donc il y a quand même une indication pour moi. Après, ça reste Luis Enrique, il y a des petites surprises, tout ça. Mais franchement, Lee et Asensio hier, enfin, Asensio en tout cas n'a pas joué, donc il jouera ce week-end, donc pour moi, il ne jouera pas contre Dortmund. Voilà, derrière, il n'y aura pas de surprise non plus. Je pense
Parce
qu'il y
que
a un
Lee, il
Hernandez.
a joué. Lee, il a joué. Non, il n'a pas joué.
Je sais pas. T'as
Moi, je pense.
quelque chose à dire sur lui, Yacine?
Je crois que j'ai plus
Non,
rien
ma
à dire. Mais
père.
comme je regardais pas les matchs de Majorque, j'avais jeté la pièce en l'air et j'ai eu bon. Mais apparemment, voilà.
Moi, je pense qu'il n'y aura pas de dinguerie de la part de Luis Enrique. Il avait déjà fait une erreur, je pense, au match aller face à Barcelone. Donc, je pense que là, je pense qu'il n'y aura pas de réelle surprise. On passe directement au dernier terme. Je vais donner la parole à toi, JB. Comme ça, je te libère et tu pourras aller rejoindre tes élèves de terminale. Alors, quelle place, selon toi, JB, aura ce titre après une saison qui est quand même accomplie? Il y a peut-être moyen de faire le quadruplé. On croise les doigts, évidemment. Mais sur ce titre de champion sous l'ère QSI avec le coach Luis Enrique, avec une nouvelle politique de recrutement, un nouvel état d'esprit, etc., 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 où tu le mettrais, ce titre, comparé aux précédentes années?
Bah déjà, moi, il m'a fait oublier la saison passée, c'est-à-dire la saison catastrophique de Galtier, où j'avais juste envie de le défenestrer à chaque fois qu'il y avait un match. Il m'a fait complètement disparaître de la mémoire la saison de Pochettino. Et ça, c'est bien, parce que du coup, il m'a réconcilié avec mon club et avec son suivi au quotidien, donc tant mieux. L'autre chose, c'est que j'ai retrouvé du plaisir et de l'incertitude dans les matchs, tout en prenant énormément de plaisir à le voir finalement évoluer. Alors parfois, il me rendait hystérique parce que je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Mais. J'ai retrouvé de l'intérêt, alors que très honnêtement, depuis 2 saisons, c'était compliqué. Après, sur les RQSI, on voit le niveau de l'adversité qui est quand même faible. Le fait d'avoir Brest aussi haut, ça dit quelque chose, même si ça n'enlève rien à la performance de Roy. Mais quand on voit l'état de Marseille et les autres, on est quand même sur un championnat qui est moins disputé. On voit finalement que les rivaux potentiels sont quand même très très loin, très vite. Après, on a une équipe qui a été capable de gérer le départ de Neymar et de Messi. De reconstruire un collectif en mettant Mbappé sur le banc à certains moments et en permettant l'arrivée d'un vrai caractère. Hein. On a vu ce que ça a donné avec l'écosystème médiatique qui a eu du mal à s'adapter et qui a toujours pas compris comment ça fonctionnait. Moi, je suis plutôt ravi de ce que je vois. Est-ce que c'est au niveau de la saison d'Ancelotti? C'est une question. Est-ce que j'ai pris autant de plaisir que sur la saison réussie de Blanc? Oui, après, le juge de paix, ça va pas être simplement le titre de champion, ça va être ce qui va se passer après les 2 matchs contre Dortmund et la finale, s'il y en a une. Ça peut être la plus belle saison de l'histoire du club. Et ça, ça viendra couronner ce qu'on a vécu. Moi, j'ai trouvé du plaisir et j'en ai pris. Et franchement, ça faisait longtemps.
Oui, parce qu'il y a Pochettino qui va en demi-finale de la Ligue des Champions, mais la saison avait
On s'est
été
fait
quand même
chier.
très
C'était un
compliquée en termes
enfer.
de jeu, exactement. Donc là, en
Le
fait,
com, c'était une catastrophe.
c'est vrai que cette saison, elle est idéale pour non seulement gagner le titre, mais ça c'est quasiment fait, mais surtout pour aller très très loin en Ligue des Champions et pourquoi pas soulever la coupe aux grandes oreilles. Jean-Baptiste, si tu veux, je peux te libérer le temps que tu ailles rejoindre tes élèves, boire un café,
Exactement. Les
etc.,
copains,
etc.
merci. Les
Salut, merci à toi,
Marocains,
JB, comme d'habitude.
bravo. Les
Ah
Colombiens, Norvégiens, etc., un peu partout, là, les gars de
oui?
Dallas et compagnie, on est avec vous. Merci d'être là et vous likez. Hein. Et je vous promets des photos exclusives de Yass et de Clément
Oui.
très très vite. Salut les
Allez,
gars!
salut,
Salut.
salut JB.
Ciao.
Bon courage.
Ouais.
Allez Clément, ton avis sur ce futur titre et la saison qui se profile, quelle place dans l'histoire de QSI. D'ailleurs, vous me direz, vous, pour vous, quelle saison a été la plus aboutie? Est-ce que c'est celle du Final 8 où on va en finale? Est-ce que c'est plutôt les premières années, comme le disait JB avec Ancelotti et Laurent Blanc, avec une équipe incroyable, une équipe type à 11 titulaires très très fort qui mettait des roustes à toute la Ligue 1? Dites-moi, vas-y
Bon.
Clément.
Il y a plein de choses déjà. Moi, je la place très très élevée. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que je vais au Parc des Princes depuis 2006 et j'ai rarement eu autant de plaisir à voir cette équipe que cette année sur le plan sportif. C'est aussi lié au fait qu'on avait moins d'attentes, beaucoup moins d'attentes en début de saison parce que paradoxalement, c'est peut-être l'équipe techniquement et sur le papier la plus faible qu'on ait depuis des années. Donc en fait, t'es autant heureux, t'es heureux à la hauteur que la surprise que génère cette équipe. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'attendais à rien. Tu sors aussi d'une période galère, d'une saison horrible l'année dernière. Ça se finit devant la Factory avec des supporters qui insultent tous les joueurs. Enfin, faut pas être amnésique, hein, faut se souvenir des choses. C'est n'importe, tout le monde se fait huer. Voilà, c'était très compliqué. Avant cela, tu avais eu des bonnes saisons, mais tu avais toujours une désillusion qui venait gâcher la saison. T'avais toujours, et je peux remonter à Dembaba, hein, je peux remonter au Chelsea de Dembaba. Donc je peux remonter à 2014 en fait. Depuis 2014, chaque saison quasiment, tu as une désillusion. Tu as le Real, tu as le Barça, tu as un match qui te plombe la saison parce que tu as des attentes, parce que tu as Neymar, parce que tu as Mbappé, parce que tu as. Les seuls, entre guillemets, les 2 saisons où tu n'en as pas, c'est les saisons Covid où tu es à huis clos, tu n'as pas pu kiffer. Tu kiffes sur le moment devant la télé, t'es grave content, c'est ouf. Mais en fait, tu kiffes pas vraiment. Là, tu vois, t'es au parc et tout, et tu
Même
vois que
la
c'est.
première, Clément, la première saison d'Ancelotti, finalement, tu es éliminé en quart de finale, mais honorablement, parce que tu fais deux
Voilà.
matchs
Et
nuls.
ben, je la comparais à celle-là,
Tu
moi,
vois
dans
ce que je veux
le.
dire? On a
Ouais.
pris du plaisir hein, cette saison
Ouais.
en Ligue des Champions, en
Et
tout cas,
là.
parce que tu perds pas, en fait. Tu te fais éliminer
Ouais.
au nombre de buts marqués, et tu as Pastore qui te donne l'espoir en marquant le premier but. C'était juste incroyable.
Ouais, et
Mais
puis t'es
c'est vrai
champion
que
de
cette
France à
saison-là,
nouveau. T'es champion de
exactement.
France la
C'est le
première
premier
depuis
titre qu'on remporte.
94. Depuis 94. Et en fait, là, je te parle pas d'arguments sportifs purement objectifs. Je te parle de kiff, de plaisir qu'on ressent
Ouais, bien
à
sûr.
suivre cette équipe. Et pour moi, depuis cette saison Ancelotti, c'est vraiment le plus gros kiff. Parce qu'à côté de ça, tu as certes des émotions, ça joue bien, mais en fait, tu as de la cohérence. Tout ce que tu réclamais depuis des années, c'est-à-dire l'institution où tu es des joueurs, un coach qui a du pouvoir, un projet de jeu que tu identifies, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu adhères pas, mais que tu identifies. Donc, c'est-à-dire que c'est cohérent. Des bonnes ambiances au parc, des performances en Ligue des Champions, parce que tu inverses des situations comme contre Barcelone. Tu vois, franchement, tout est réuni. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment, cette année, c'est le kiff. Hein, franchement, il faut dire, c'est le kiff. Et
Ouais,
ça
c'est vrai.
l'est d'autant plus que on s'attendait à peu de choses de cet effectif. Encore une fois, moi, je le dis, j'en parle à des potes, ils me disent, ouais, est-ce que vous allez aller au bout? Je fais, on a démarré l'année. T'avais Warren Zaïre-Emery qui avait 17 ans, Barcola, personne ne pensait qu'il serait titulaire, Ramos, personne ne le connaissait, Fabian Ruiz, personne n'aurait dit qu'il serait titulaire, et tu te retrouves en demi-finale de Ligue des Champions avec ces gars-là. Franchement, on est en surperf au PSG cette saison. On a des résultats au-dessus de ce qu'on attendait.
Il y a Gulfas qui nous dit on a eu Stambouli quand même. C'est vrai.
Ah oui, sans voler.
Yacine, pour toi, ce futur titre et pourquoi pas la fin de saison qui arrive avec cette finale de Coupe de France face à Lyon, c'est une très belle affiche en plus, et demi-finale face à Dortmund qui pourra peut-être nous faire accéder à la finale et pourquoi pas rêver de la première Ligue des Champions au PSG, première Ligue des Champions, je dirais même française. Car celle-ci ne sera pas entachée de quelques doutes. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Moi, je vais rester sur la question, le titre, parce qu'en fait, la saison n'est pas finie dans le reste, et malgré tout,
Bien
alors,
sûr.
ça changera pas le bilan global, mais ça peut être un peu embelli, un peu, parce que malgré tout, si tu sors contre Dortmund, ça restera une déception. Il y aura une petite déception, ce sera pas un drame, hein, mais il y aura une petite déception. Donc, je vais rester sur le titre. Quelle place il a? Je pense qu'il a aujourd'hui une bonne place parce que sur les dernières saisons, on avait l'impression que le titre, c'était juste une normalité et que les mecs venaient faire leur boulot sans âme. Je crois qu'on en avait parlé il y a 2 ans, et même un peu l'année dernière, mais il y a 2 ans. D'ailleurs, quelqu'un qui nous rappelait dans le chat que c'était tellement horrible qu'on avait arrêté les podcasts. En fait, on ressentait aucune émotion. On avait l'impression des mecs qui allaient à la mine, faire leur taf, prendre les points. Il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas d'âme. Je l'avais tweeté l'année dernière, il y a 2 ans. En fait, cette équipe, elle ne me renvoyait rien. J'avais aucun amour pour elle, j'avais aucune sensation, aucune émotion. Ben voilà, tu prenais les titres, on était content d'être champion parce qu'on est supporter et que ça nous permettait d'engrainer les titres de champion, de les cumuler et d'être le club le plus titré de France. Mais on avait l'impression de, voilà, un passage obligé, quoi. C'était un checkpoint, ok, merci, salut, on passe à autre chose. Et en fait, cette saison, même si encore une fois, on va pas mentir aux gens ou se raconter des histoires. Le début de saison a été compliqué. Il n'y a pas eu des bons matchs tout le temps. Il y a eu des. Voilà. Mais on a vu quelque chose se construire. On a vu des joueurs avoir envie de se taper. Même si ça paraît normal, comme le fait que Lucien Riquet fait son travail, mais en fait, c'était plus devenu normal. On a vu des joueurs travailler ensemble. On a vu un collectif grandir. On a vu des joueurs progresser. Et à l'arrivée, je rappelle quand même que cette semaine, Paris a marqué 4 buts dans tous ses matchs. Alors, c'est arrivé sur certaines périodes avec Zlatan, etc., avec des festivals, même quand le
Ah mais
Paris va
c'est arrivé
gagner.
beaucoup plus que cette saison même, hein. Franchement,
Ouais,
c'était
c'est
moi je me
arrivé.
rappelle
Donc, c'est pour ça.
il collait à des Lyon des 6-0, à Marseille des 5-0,
Quand tu vas
ça
gagner
se
à
chialait.
3
Hein.
avec 9 buts, voilà,
Exactement.
je pense que cette période-là, elle est pour l'instant. encore au-dessus. Tu vois, pareil, hein, parce que le problème de la mémoire, c'est qu'on en fait ce qu'on veut. La première année de Laurent Blanc, je rappelle quand même qu'il y a un mois et demi très compliqué et qu'il faut un changement de système pour que le PSG redevienne. Paris jouait avec Cavani et Zlatan dans l'as, ça ne marchait pas. Il y a la création du fameux trio Mota, Verratti, Matuidi, c'est à ce moment-là. C'était après un match face à Nantes. Donc tout n'était pas parfait non plus, il ne faut pas raconter d'histoire. Mais en tout cas, sur la durée, ça avait quand même duré plus longtemps. Là, on a vécu 4 mois difficiles dans le sens où il y avait des matchs qui n'étaient pas super beaux. Il y avait des joueurs qui étaient dans le dur. Voilà. Et bah, il y a eu de la progression, le collectif, le coach. D'ailleurs, le coach avait dit, on
Il
sera mieux
l'avait
en
dit en plus.
février. Il s'était trompé d'un match, d'un mois. C'était en mars qu'on serait meilleur, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, il a une bonne place. Ce n'est pas le plus beau titre. Parce que déjà, le plus beau titre, pour moi, en tant que supporter, c'est le premier en 86, parce que c'est le premier, parce qu'il y a la série d'invincibilité, parce que c'est une autre période et que je suis plus jeune aussi. Donc je ne les apprécie pas de la même façon. Maintenant, tu vois, par exemple, quand tu bats le record de titre de champion, quand tu passes devant Saint-Étienne, c'est avec Galtier. C'est important, et eh ben je l'apprécierai pas, je l'ai pas apprécié comme je vais apprécier celui-là. Voilà, celui-là, tu es allé le chercher avec des hauts et des bas, avec bref, une histoire. En fait, tu as raconté une histoire. Voilà, il y a eu une histoire, des jeunes, un groupe qui s'est développé. Et moi, je trouve que c'est aussi important que le fait de finir avec 14 points d'avance parce que la Ligue 1 est éclatée et que tu as des joueurs au-dessus qui font la différence sur les matchs, qui te font gagner comme ça, mais où tu n'as rien ressenti. Et l'année dernière, on est champion. On est quand même champion. Et tu as cette saison qui finit avec des insultes. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Ça veut dire aussi quand même que malgré la période, que malgré les réseaux sociaux, que malgré aussi beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans le foot, parce que c'est logique, et ben malgré tout, un titre de champion, ça ne masque pas plein de choses que les supporters ont besoin de vivre en termes d'émotion, en termes de connexion avec l'équipe. Ben, tout ça, c'est important. Et je trouve que cette année, on est en train de le ressentir, ça a grandi, et il y a vraiment une équipe qui s'investit pour le collectif. Et c'est ça qui nous fait ressentir ça aussi.
Moi, si je peux ajouter à mon humble avis, les amis, déjà, tout ce que vous avez dit est vrai. C'est vrai, dans le chat, je l'ai vu, il y a une vraie reconnexion entre les supporters et leur équipe, donc le PSG, ce qu'on avait perdu ces dernières
Mousse,
années.
en parlant de connexion, juste le fait
Ouais,
d'aller saluer.
mais t'as pas le droit de me couper, Yacine. T'as pas le droit.
Juste le fait de voir tout le monde, saluer les supporters très très régulièrement, et ce, même au début de l'année quand c'était un peu compliqué, même si au départ c'est peut-être de la com en disant, bon les gars, on va essayer de reconnecter avec les supporters, aller les saluer quand même et tout, bah, au fur et à mesure, bah, tu vois, tout le monde se prend au jeu, et à la fin, tu te retrouves avec des mecs qui chantent devant les tribunes. Voilà, c'est pas rien.
Bon, là, je vais voir des commentaires en disant Yas, arrête de couper mousse. Bon, là, il n'y en a pas, bizarrement. Non, non, mais c'est vrai, en plus, c'est ce que j'allais dire. Donc, ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que vraiment, ces dernières saisons, c'était très, très, très compliqué. Et pas que au Parc des Princes, hein, même sur les réseaux, etc. Tout le monde était blasé, tout le monde était triste. On ne fêtait même pas les titres. Comme tu l'as dit, Yacine, bon, il y avait un titre, c'était quasiment normal. Et puis, bon, basta, quoi, on passe à autre chose, quoi, tu vois. Les fins de saison étaient terribles après les éliminations de la Ligue des Champions. Il y a des gens qui ne voulaient plus rien lire, ils ne voulaient plus voir les matchs, et ils venaient
Il y
même
avait
plus
des
voir
grèves.
nos débriefs.
Ça
Il
chantait
y
même
avait
plus.
des. Voilà, c'était incroyable. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'effectivement, on a l'impression que pour la première fois, en tout cas sous l'ère QSI, il y a un coach qui n'a pas la pression de l'élimination. On sent ça. On sent que même si, effectivement, et on ne le souhaite pas, s'il sort face à Dortmund, on sent qu'il n'y aura pas de drama, que Nasser El Khelaïfi va pas venir pleurer devant la caméra en disant. Et on sent qu'il n'est pas menacé parce qu'il a fait un vrai travail et on pense quasiment sûr qu'il va continuer. On l'espère pour longtemps. Après, tout est lié au résultat. Si la saison prochaine, il y a 6-7 mauvais résultats d'affilée, évidemment que c'est le PSG, qu'il sera peut-être en danger. On l'espère pas. En tout cas, on espère qu'il pourra travailler sereinement et encore de nombreuses années parce que ce qu'il a apporté. L'état d'esprit, insuffler plus de collectif, etc. Honnêtement, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc, on l'avait vu un petit peu sous Unai, un petit peu sous Tourelle, mais basta. Et puis après, il y a eu Laurent Blanc, mais ce n'est pas pareil, parce qu'il y a eu beaucoup de régularité et l'effectif ne bougeait pas tant que ça. Il y avait quelques ajustements. Voilà, on a repris du plaisir, on a repris du kiff. Et ça, c'est le plus important. Il est temps de nous quitter. Un mot peut-être, Clément, sur la suite du programme, en tout cas pour les abonnés. Pour les abonnés premium, on espère que vous serez encore de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on peut dévoiler les prochaines choses, ce qu'il va y avoir, ou on garde encore un peu de suspense? Dis-nous tout, Clément.
Déjà, si notre ami Yacine nous confirme, on aura une minute coach à la veille du match retour
Oui.
de Ligue des Champions, entre les deux matchs, donc entre l'aller et le retour. On diffusera la veille du match retour au Parc des Princes une minute coach. Donc ça, c'est le premier qui va arriver. Ensuite, on aura une émission premium comme vous aviez pu avoir sur la place d'Mbappé dans l'histoire du PSG. On en aura une sur le Parc des Princes. Le PSG au Parc des Princes, l'histoire du PSG au Parc des Princes, quel avenir pour le PSG au Parc des Princes. Donc voilà, avec un invité, un supporter historique de la Tribune Boulogne. Vous allez voir, c'est un personnage, on vous en dit pas plus. Et puis une interview assez sympa aussi avec une grande figure de l'histoire du PSG. Il a gagné pas mal de trophées en tant que joueur et en tant qu'entraîneur au PSG. On vous en dit pas plus, mais on garde la surprise encore un peu, on garde la surprise. Mais elle est en boîte, elle est prête.
Bon, ça marche, ça marche. Donc, vous voyez, il y
Ça
a pas
marche,
mal de choses
attends.
qui arrivent.
Oui, parce
Ah,
qu'on parle de ça dans le chat, donc je vais le montrer en exclu, mais
ah, c'est
pas
le
avec
futur
les bons
maillot.
sponsors,
Ouais.
le maillot de l'année prochaine.
Ah, voilà. Très inspiré du maillot des années 80, du coup.
Voilà.
Voilà. Magnifique, hein.
Évidemment, ça fait de Suzic. Hein.
Magnifique.
Pouvez pas faire autrement. Donc, vous changez juste les sponsors et ce sera le même.
Voilà. Juste
Et d'ailleurs,
aussi, avant de.
je sais pas si vous avez vu Amara
Tu
Simba.
vas arrêter tu vas
Non,
arrêter de
non.
me couper, hein, franchement. Ça
Amara
suffit,
Simba,
c'est le.
Amara Simba qui a tweeté parce que, il avait joué dans cette équipe avec ce fameux
Ouais,
maillot.
je l'ai vu le tweet.
Tu l'as
Ouais.
vu?
Ouais, je l'ai vu le tweet. Ouais. Il avait le même maillot, exactement.
Ouais, il a dit que ce sera le maillot de l'année prochaine avec sa photo avec le maillot. Je trouvais que c'était un beau clin d'œil
D'ailleurs,
aussi.
vous savez que sur notre chaîne YouTube, peut-être que vous n'avez pas vu, mais on a fait beaucoup d'interviews avant, et notamment, moi, j'avais eu le plaisir de faire celle d'Amara Simba. Donc, voilà, elle est encore d'actualité, vous pouvez la voir. Comme l'interview qu'avait faite Clément de. Ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Celui qui avait le record de cap au PSG.
Jean-Marc Pilanger, bien sûr.
Jean-Marc Pilanger, pardon, excuse-moi.
Bien
Ça
sûr.
m'a échappé. On
Très
en
sympa.
parlait avec le record de Marquinhos. Donc, elle est toujours en ligne, elle est regardée. Et a pas mal de souvenirs, surtout pour les anciens. Deux mots juste pour vous dire. Alors, pour le débrief Dortmund-Paris Saint-Germain, on ne vous promet rien, les amis. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Assis, il travaille, il va être à l'étranger. On va essayer de le faire depuis le Maroc, mais toute une question de connexion. Nos camarades Hugo et Clément seront aussi en vacances. Donc,
Non,
voilà.
non, Mousse, moi je serai à
Oui, pardon,
Dortmund.
dis-moi.
Moi je serai à Dortmund
Ah oui, toi tu seras à Dortmund,
pour
oui,
le
parce que vous
match.
serez
Donc,
rentré, vous, pardon. Oui.
ouais, donc je fais
Hugo
partie
sera là, du coup,
des.
alors?
Hugo sera là, exactement.
Ouais, c'est ça.
Je fais partie des 4000 qui ont une place en 3 minutes. Donc
Oui, c'est vrai.
à 18 euros, il faut souligner merci Dortmund parce qu'ils mettent des
C'est
tarifs,
ouf.
c'est ouf. Franchement,
Incroyable.
ça vaut
Ouais.
moins cher d'aller à Dortmund que d'être au parc. Bref, c'est un autre
Mais ça
sujet.
revient à moins cher d'aller à Dortmund que d'aller à Roissy en RER.
Exactement.
Non, c'est parce que j'avais confondu, c'est Yacine qui va passer quasiment une semaine, qui va passer une semaine au Maroc, et vous, c'est juste un week-end. Donc du coup, Hugo sera là, j'espère être présent. On espère que Yacine, depuis le
Voilà.
Maroc, avec une connexion, mais je fais confiance au Maroc qui, d'un point de vue technologique, est incroyable, et je pense que ça devrait suffire, normalement. Alors par contre, il faut le préciser, ça sera, si ça marche, ça sera un horaire un peu différent, donc sans doute en fin de journée, après la
Ouais.
journée de travail de Yacine. En tout cas, on va tout
Ouais.
faire pour être là.
Mmh.
Et puis si Yacine n'est pas là, on trouvera quelqu'un pour le remplacer. Alors je sais, il est inimitable, irremplaçable, mais on va quand même essayer de faire un bon débrief, mais on croise les doigts tout de même. Je voulais remercier tous ceux qui étaient sur le chat. On a été quasiment à plus de 700, un peu moins de 800. Tout au long du chat. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, on le rappelle. Il faut liker, parlez-en autour de vous, faites la pub pour nous. Et on vous promet qu'au niveau connexion, tout ça, là c'est la fin de saison, mais la saison prochaine, tout sera nickel. On aura tous des micros, on
Ouais.
va investir, beaucoup d'émissions en studio. Et ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre contribution, vraiment. Tout ce qu'on va faire la saison prochaine, c'est vraiment grâce à vous. Et merci encore pour votre fidélité. Merci coach Yacine d'avoir été avec nous dans la joie et dans la bonne humeur pour une fois. Voilà, tout à fait zen, tout à
Bon,
fait
pas pour une
calme.
fois, parce que ça fait quelques semaines que je
Ouais, ça
prends
fait
des
longtemps.
remarques, justement, comme quoi il n'y a plus de casse-toi, il n'y a plus d'énervement.
Ouais, mais il y a toujours parfois, on sent que le sang algérien remonte
Ouais.
un peu à la surface. Et puis d'un coup, ça se calme, c'est vrai. Donc,
ouais, j'en ai besoin.
Merci beaucoup.
Mon corps en a besoin.
Et merci aux jeunes et néanmoins talentueux Clément Pernia.
Merci à vous. Merci à
le podcast. Merci à tous. Bon match Paris Saint-Germain-Le Havre. Et surtout, Dortmund-PSG. Ah oui, je le dis, il y a une petite vidéo qu'on a enregistrée quand même.
Oui.
Qu'on diffusera juste avant le match. Un petit preview, comme on appelle ça dans le jargon. Et donc, il y aura une petite vidéo pour l'avant-match. Alors que ce ne sera pas du live, malheureusement. Mais comme je vous dis, comme ils ne sont pas là, donc on a fait ce qu'on a pu. Mais à retrouver, je ne sais pas si on le mettra lundi soir, mardi.
Ouais, lundi, quoi, lundi.
Voilà, lundi. Donc, de toute façon, on l'annoncera sur tous nos réseaux sociaux. Bonne fin de semaine à tous. Bon match, les amis. On espère une victoire, en tout cas, une victoire au match aller du PSG. Et puis, quoi dire de plus? Salut et merci encore. Ciao.
Salut.
Ciao.